This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comment allez-vous autour de la table?
Bah, ça
très
va. Bien.
Très plaisir ça de vous bien. Revoir et de voir ta petite bouille,
c'est
Patrick.
Vrai.
Patrick Beau, qui est notre invité aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Qui nous fait l'honneur de sa présence.
Oui.
Je suis obligé de présenter un petit peu Patrick, hein, pour
bien
ceux
sûr.
Qui ne connaissent pas. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Axolot, où tu présentes un petit peu des curiosités de la planète.
C'est ça, ouais.
Tu fais aussi des livres. Mm-hmm. J'ai appris tout à l'heure que tu fais aussi du graphisme, et donc tu es en train de monter une petite... C'est ça
un petit projet graphique.
Un petit projet graphique. La liste est longue, donc j'essaie de tout souvenir. Si tu veux m'aider, Patrick,
il y a des
problèmes.
Bien sûr, il y a des BD aussi.
Des bandes dessinées,
BD
Axolot.
Il y a un spectacle qui s'appelle La Veillée.
Oui, voilà, tout à fait.
Qui a lieu deux fois par an à Paris. Voilà, je pense que c'est déjà pas
c'est
mal.
C'est déjà pas mal.
Un peu streamer, des fois.
Enfin, ah oui, c'est vrai, oui, c'est j'ai une chaîne Twitch aussi, sur laquelle je fais les étranges escales à domicile. En fait, on explore les curiosités du monde sur Street View, puisque forcément,
quand
à partir
tu peux pas te déplacer,
moment,
tu te déplaces quand même. Finalement.
Déjà ça, et puis du moment que quelque chose existe à l'extérieur, c'est potentiellement visible sur Street View, donc c'est une espèce d'immense musée à ciel ouvert. En
oui,
fait.
Vous êtes sur Street View? On en a déjà parlé.
Oui,
Alors, il y a un petit bug.
On devrait mettre un bingo.
Ouais, Patrick, es-tu sur Street View?
Écoute, non, mais toi, oui, c'est ça.
C'est ça, oui. Exactement.
Yes.
On voit faire du vélo.
Moi, j'avais dit c'était Mappy. Potentiellement. Je n'étais pas sur Google Street View, mais sur Mappy, c'était un peu plus.
Mais j'ai que des célébrités autour de moi, en fait.
Ouais, t'es sur Wikifeet, on le rappelle, je ne suis pas sur Wikifeet.
Et sur le Centre Le Monde maintenant.
C'est vrai, putain, j'avoue.
Je pense que c'est le moment.
Du générique,
oui. S'il vous plaît.
Oui, oui. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable
Pierre Lapin.
Ainsi que l'inimitable
Magla.
Sans oublier l'incorrigible
Patrick Beau.
Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
Incroyable générique.
Oh là là, c'est propre. Avec Patrick,
c'est carré maintenant. Ouais.
Je le savais, quand l'invite était envoyé, qu'elle acceptait, je me suis dit, le générique, il allait être carré.
D'ailleurs, on remercie quelqu'un qui a fait un petit montage.
Oh là oui, là. C'était
notre
si
générique.
Drôle.
Ah, j'ai vu ça, oui.
Ah, mon cerveau était explosé, mais en même temps, j'étais...
La fatigue.
C'était génial.
C'est dur de mettre pause, en fait, t'es devant et tu... Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est juste un super cut, finalement, de tous les invités. Et du coup, le générique dure une minute et c'est tout le temps la même voix qui fait... Et aussi. Et c'est horrible. On va t'ajouter du coup Patrick bientôt dans ce
dedans aussi.
Final Cut, super. C'est un truc un peu interminable. Une sorte de cauchemar finalement.
Exactement.
Nous avons une petite thématique, comme tu aimes beaucoup. Enfin, je sais pas si tu aimes vraiment. J'imagine que tu aimes voyager.
Il déteste ça.
Mais en tout cas, tu parles beaucoup de voyages. Et du coup, je me dis, ce serait pas mal de raconter un petit peu nos voyages à l'étranger, mais aussi en France en fait. Hein.
C'est important parce que oui, on le rappelle que tu as lancé. Un kiss-kiss-bang-bang pour les étrangers escales, mais en France, c'est ça?
Bientôt.
Écoute, merci beaucoup, Pierre, c'est vraiment gentil, parce que j'ai même pas besoin de le dire moi-même.
C'est ça.
Tu me l'amènes sur un plateau.
Pierre fait la promo, et trop sympa.
Donc alors, effectivement, il y a une nouvelle saison de ma série Étrangers escales, qui est une série sur ma chaîne YouTube, dans laquelle on va découvrir comme ça les curiosités du monde. Et donc, la prochaine saison sera en France, donc on va revisiter
alors,
comme ça.
Alors, si je puis me permettre, normalement, c'est dans l'autre sens. C'est normalement, tu commences par la France, le pays où tu résides, et ensuite, tu vas à l'autre bout du globe.
Ben, on l'a fait à l'envers. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment énormément de trucs qu'on ne connaît pas en France. Et,
est-ce que la saison 3, c'est à Avignon uniquement? Saison 4, c'est vraiment la rue.
Salle de bain.
Ce sera dans mon bureau, la troisième saison. Et donc, voilà, on va lancer cette campagne vendredi.
Combien d'épisodes tu...
Alors, on va commencer par 5. Et si l'objectif est dépassé, on en fera peut-être un peu plus. Et donc, effectivement, ce sera sur Kiss Kiss Bang Bang. Et on va, comme ça, redécouvrir 5 villes françaises que je dévoilerai vendredi par le biais des curiosités, des lieux étonnants.
Paris, Lyon, Marseille...
Saint-Ouen-l'Aumône.
Il y a Avignon dedans.
Ah oui, ce serait...
Non, Paris, on l'a déjà fait dans la première,
c'est vrai,
dans la première saison.
Donc, on peut avoir Saint-Ouen-l'Aumône.
Avec Adrien Méniel.
Il y a Adrien, exactement.
Sataniste.
J'ai une petite, petite anecdote là-dessus, c'est que je, avant que, de découvrir un petit peu ta chaîne et ce que tu faisais, etc., j'avais pour projet de faire un peu la même chose à Paris, en fait. Donc moi, je voulais pas trop voyager, mais je me suis dit, en fait, bon, pour vous faire globalement le schéma du truc, j'avais découvert, je sais plus comment, les faux immeubles qu'il y a à Paris, tu sais, ceux qui servent.
Ouais.
Donc il y a des faux immeubles à Paris où, qui servent juste de bouche d'aération pour le métro parisien. Donc c'est un immeuble de genre 6 étages, mais en fait tout est fermé, c'est fausse façade, derrière c'est vraiment juste des échafaudages et de l'air chaud qui sort. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est génial parce que c'est des endroits où je passais devant genre régulièrement, tu vois, et jamais je me suis dit c'est un faux immeuble, tu vois. Et du coup je me suis dit ce serait marrant de faire un peu la liste des trucs un peu chelous à Paris. Ouais. Après finalement c'est pas du tout mon registre, donc j'ai pas fait, je n'ai pas du tout fait cette vidéo, mais Patrick tu l'as fait avec voilà. Avec beaucoup brio, c'était...
Bah, merci beaucoup. Mais alors ça, tu sais qu'il y en a, aussi un à New York, donc un faux immeuble dont toutes les fenêtres sont noires, ce qui fait que de l'extérieur, c'est assez flippant. Et il y a pas mal de gens, d'ailleurs, qui l'évitent, cet immeuble, parce qu'il y a un petit côté maudit. Et en fait, c'est juste, effectivement, une espèce de bouche d'aération camouflée pour le métro. Et il y en a une aussi en Angleterre, à Londres. C'est un très beau bâtiment, pour le coup. On croirait jamais que c'est un faux truc, mais ça cache, là aussi, le métro.
Eh ben, je vais visiter tous les faux immeubles.
J'ai envie de voir.
Et faire un super code qui durera 3 secondes où je fais juste toc toc, ça répond pas et ce sera la fin. On va parler un petit peu du coup de nos voyages, ce sera un peu notre thématique, mais il me semble qu'il y a des il y a un peu des news,
qu'est-ce
que t'en penses Pierre?
Oui, je peux vous faire une review d'actualité. Tout d'abord, Samuel Etienne est sur Twitch, je sais pas si vous êtes au courant.
Pierre, ça devient gênant.
Non, par contre, pour revenir sur les news qu'on avait fait par rapport à Twitter, Twitter a bien confirmé qu'ils allaient implémenter des nouvelles features.
Okay,
donc ce qu'on avait évoqué comme super following, qui était un peu une espèce de Patreon, tu vas pouvoir payer pour avoir des tweets en exclusivité. Okay. Apparemment, ça va être vraiment développé. Donc voilà, c'est un petit
ils
retour sur nos news.
Ils ont une date ou courant 2021?
Je suis pas au courant. Après, peut-être c'est étape par étape, comme avec les fleets ou quoi que ce soit. Donc pour une fois qu'on dit pas trop de conneries dans 300 000 vues, je voulais
c'est
un peu y revenir.
C'est même, pour ainsi dire, la première fois. Et avec Patrick, ça sera un peu moins de bullshit normalement aujourd'hui.
Tu veux dire que c'est comme un OnlyFans de tout.
Exactement.
En fait.
Un peu, ouais. Tu peux logiquement tipper et après, tu as le super following qui te permet d'avoir du contenu en tant que super follower.
Je sais pas si ça fonctionnera très bien.
Je sais pas. Que... Déjà, les fleets, j'ai pas l'impression que ça fonctionne de ouf.
Non.
Alors, figurez-vous que vous avez raison, ça marche pas du tout.
Vous avez déjà utilisé des fleets
pour la blague. Mais...
Pour dire, hey, j'ai fait un fleet, je suis un gros connard. C'est tout.
Moi, j'utiliserai jamais.
Mais qu'est-ce que tu veux donner à tes super followers, toi? Je sais pas,
j'ai pas envie de faire payer les gens pour voir des trucs en plus. Enfin,
ouais, je sais pas, on va voir ce que ça
non
donne.
Mais qui vous pourriez suivre, payer pour suivre sur Twitter? Je suis bien curieux en fait, tu vois.
Je sais pas.
Puis en plus, ça implique que la personne qui va faire payer certains tweets va se dire, bon, ce tweet-là est beaucoup
c'est
trop
ça.
Que je le laisse en public, donc je vais le faire payer.
Ouais, puis ça, les gens peuvent screen et le remettre. Enfin,
ouais, j'avoue,
façon,
en plus. Ouais. Bah oui.
Je sais pas comment ils vont protéger ça.
Oui, j'avoue.
Bah, attendez, OnlyFans, c'est la même chose. Tu peux screen. Et... Ouais. Mais c'est tout le réseau social qui est construit comme ça. Tu comprends
sur la même plateforme.
Je sais pas. De faire du gratuit, c'est comme YouTube Premium. Mm-hmm. Red, ça a eu différents noms. Mais en gros, de te proposer du contenu, genre, hey, non, il faut être premium pour avoir Groom ou je ne sais quelle série. Je pense que ça a beaucoup frustré les gens. Quoi. Et là, ouais. Twitter, qui est l'essence même de la gratuité pour tout le monde, finalement, de dire, non, ça, si tu veux lire ce tweet, il faut payer. Tu payes, tu vois un tweet, tu fais, j'aurais peut-être pas dû payer pour ça.
Ouais, ça t'amène pas grand-chose. Non,
après, est-ce que ça peut amener une certaine protection aussi pour des gens engagés, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, mais bon, on va voir ce que ça donne.
Peut-être pour les comptes de news et d'actu, je vois dans le chat, c'est pas bête.
Peut-être.
Parce que t'as les journaux qui sont payants, etc., les versions payantes, donc peut-être qu'il faudrait être abonné, oui.
Bah, c'est vrai, parce que quelque part, le thread devient un nouveau moyen. Enfin, vu que les gens maintenant ont la flemme de cliquer sur un lien, de toute façon, c'est souvent abonné only, peut-être que tu pourras avoir des threads, effectivement, de médias vérifiés, car c'est important de. Partager les médias vérifiés. Non, mais je voulais vous évoquer quelque chose qui se passe un peu dans la sphère Internet. Est-ce que vous êtes un peu connaisseur de la sphère VTuber? Est-ce que vous savez un peu
les
ce VTubers, que c'est
ouais. VTuber? Les petits personnages animés?
Exactement, donc ça va être des vidéastes. Et en ce moment, ça explose. Alors, avec, par exemple,
il faut peut-être décrire ce que c'est quand même.
Je vais vous expliquer. Est-ce que déjà vous connaissez Harvey le renard?
Ah oui, si.
Ou Code Miko?
Oui, ok.
En fait, Code Miko. Non, Code Miko. En fait, voilà. Donc là, c'est Harvey le renard, comme vous voyez. En fait, ce sont des créateurs et créatrices, mais qui n'existent pas. Ouais. Donc en fait, ce sont des créateurs et des créatrices qui utilisent un espèce de persona, parce qu'on dirait vraiment un furry ou un espèce d'alter ego virtuel. Et en ce moment, c'est en pleine explosion. Il faut savoir, donc, il y a Harvey le renard qui est là, francophone.
Tes exemples, c'est des personnages en 3D.
Exactement.
En CGI, mais moi, j'avais vu, par exemple, il existe aussi des personnages en 2D où, du coup, c'est du gaming. Et à côté, plutôt que de voir une petite PIP, un mec jouer, ou une meuf, c'est un personnage en 2D manga, quoi. Mais qui,
exactement.
Où tu vois vraiment... Bah, par contre, dès que tu entends la voix, tu sens que c'est un peu chelou, tu vois.
Ouais.
Même dès le début, en fait, tout est chelou, mais oui, ça existe. Mais je savais pas qu'il y en avait en 3D.
Et donc, du coup, ça va même sur les nouvelles plateformes, parce que Harvey est souvent sur TikTok. Enfin, sur TikTok, à plus de 1,5 million d'abonnés.
C'est très drôle, c'est très chouette.
Incroyable.
Ce qu'il fait, je trouve,
donc, souvent, il va aller sur Omegle pour aller voir les viewers et tout ça. Et même récemment, ça m'a fait rire. Harvey le renard a eu sa première OPSP.
C'est vrai.
Et là, il y a une vidéo où j'ai Harvey le renard qui parle de ses discounts.
Mais non,
ça incroyable. Fait mourir de rire.
Une grande table pour pouvoir inviter plein de gens. Ce qui est d'ailleurs très pratique quand on a plein d'amis à inviter, c'est bien sûr tout à fait mon cas. Et heureusement, la solution est sur ses discounts.
Ça me tue de rire.
C'est génial.
Donc en fait, ça devient complètement mainstream. Donc voilà, 1,5 million abonnés. Et en ce moment, sur Twitch, la personne qui fait le buzz, c'est Code Miko. Donc Code Miko, on a un peu à apercevoir. Peut-être qu'on va juste voir la vidéo.
Il n'y a que moi qui ai un effet big deal là-dedans où je vois un personnage.
Totalement.
J'ai pas pensé.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais après, ça nous ramène aussi à une époque genre Deka TV avec donc Kekong qui était en 3D aussi.
Ah, mais grave.
Ou sur Canal Plus, il y avait une présentatrice dans le jeu vidéo, je sais plus comment ça s'appelait.
Oui. Avec les grosses lèvres.
Cléo
là.
Cléo. Incroyable.
C'est ça. Non, elle avait
une. Cléo, ouais.
Exactement, c'est ça.
Elle avait un visage qui faisait très peur. Mais
oui.
C'est commun à tous les personnages en CGI, si j'ai l'impression.
C'est ça, ouais.
Il y a toujours un truc creepy.
Et Code Miko, donc il faut savoir, donc c'est voilà, c'est traqué, donc elle a une espèce de soute qui coûte 30 000 $ apparemment, c'est absolument fou.
Pour le coup, elle ressemble
vraiment bien les mouvements, etc.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Là, ce qu'elle porte, ça coûte genre cher.
30 000 $.
Mais on est d'accord, c'est une tenue quechua là, c'est un truc de
pompe. En fait, c'est vraiment la copie conforme de son avatar, donc on se demande même si c'est vraiment la peine de le faire pour de faux, tu vois.
Surtout qu'elle se cosplay. Elle se cosplay en Code Miko.
En plus, d'accord.
Ouais. Et donc du coup, non, mais sur Twitch, un petit peu, ça fait le buzz en ce moment. Il y a plus de centaines de milliers de followers. Elle a fait récemment un truc avec Pokimane, qui est une créatrice très en place sur la plateforme. Et donc on voit de plus en plus. Là, j'ai vu, il y avait Ponokishan et tout ça. Donc le VTubing devient quelque chose. D'accord. Et des gens se cachent un peu derrière des personnages.
Mais est-ce que tu connais, Pierre, cette chaîne avec un gars qui fait des interviews de personnes dans une chatroom virtuelle? Donc je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est VChat ou un truc comme ça.
Oui, certainement. Ouais.
Et donc il y a que des avatars un peu extravagants dans l'esprit de Ready Player One.
Okay.
Et donc ce mec fait des interviews avec des gens qui sont des chats géants ou. Et il y a une interview incroyable où il parle à un type donc qui est un ancien militaire qui parle de son stress post-traumatique parce qu'il a tué des gens. Alors qu'en fait, c'est un ourson, tu vois. Et il explique ça, il parle de ce choc et de sa thérapie. Et la chaîne est surréaliste, vraiment.
Mais est-ce que parfois, ça peut peut-être aussi t'aider, en fait, finalement, d'être derrière un...
Ouais, ça te cache, tu parles plus facilement.
T'imagines que d'être derrière un personnage, ça peut t'aider à... Je sais pas, j'imagine que ces gens-là qui arrivent à créer du divertissement, ils y arrivent plus facilement aussi.
Bah ouais,
spontanément, tu te dis pas, je veux être un lapin ou un renard bleu, tu vois.
C'est ça, oui. Parce que c'est vrai que de faire du no-cam sur Twitch, c'est un peu plus compliqué pour percer. Et c'est vrai que ça peut être une solution pour essayer de montrer tes mimiques, tes expressions et te cacher derrière quelque chose et de s'exprimer. Non, mais je trouve ça assez marrant de voir des patterns.
Les Daft Punk avaient fait ça déjà plus
tard. Oui, oui.
On sait où ça termine. Hein.
Mais c'est marrant de voir des trucs qu'on avait un peu abandonnés il y a une quinzaine d'années, parce que je me rappelais, ou 20 ans, Deka TV, où je dis, ouais, c'est des trucs de ringard, ou même le Big Deal, tu vois. Ouais. Et de voir une espèce de cycle qui se refait. Et donc sur une nouvelle plateforme.
Le truc, c'est qu'à l'époque, il fallait des moyens pour faire ça.
C'est ça.
Aujourd'hui, n'importe qui peut être Bill du Big Deal s'il veut. Depuis chez lui, quoi. Donc ça.
C'est génial. Je veux le Bill, en fait.
Et bah, ce futur me réjouit. Patrick, quand tu dis que tu peux devenir Bill du Big Deal sans moyens, mais c'est ça le futur.
Faut croire en tes rêves.
D'ailleurs, grand retour de hype sur le Big Deal. J'ai vu plein de créateurs et créatrices qui sont fans de ça. D'ailleurs, je sais plus dans le chat, je crois qu'il y a quelqu'un sur Twitch qui est en train de réaliser de A à Z le générique de Big Deal tout en 3D.
Mais non.
CGI, je sais pas. S'il y a quelqu'un du chat, n'hésitez pas à partager. Et c'est assez
marrant
de voir ça.
On voit que le confinement, quand même,
les gens sont chiés.
Mais ça, c'est à cause du floodcast. Il y a eu un retour de hype de Big Deal à cause du floodcast, bien sûr.
Je pense.
Alors, j'ai une autre théorie, c'est que le hype n'est jamais retombé. Personne n'en parle. Vous parlez d'un retour, mais est-ce que Bill et Big Deal est vraiment parti?
Je pose la question. Toujours là.
Mais ouais, non, c'est très drôle de revoir ce retour de hype. Mais moi, Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je sais
non,
pas.
Mais c'est juste
je
que.
Je projette des choses bizarres comme
la,
d'hab.
La mais... fille que tu nous as montrée, je trouve ça beaucoup moins creepy qu'un personnage un peu fury et ouais. tout. Mais parce que aussi, je pense que c'est la techno finalement qui est plus convaincante, tu vois, où le personnage il est assez. Enfin, il est plus.
Ah,
stylé,
c'est
quoi.
Humanisé, c'est un humain, etc. Donc tu t'identifies plus, je pense. Et,
ah oui, aussi, oui.
Après, Harvey, moi, je le trouve rigolo. J'avais découvert sur TikTok ouais. et franchement, il est vraiment très rigolo. Il passerait bien. Et non, c'est chouette, je trouve.
Et c'est pas le seul, parce que sur TikTok, il y a beaucoup.
J'ai vu un deuxième renard en plus, oui, j'ai vu, il y en a un deuxième qui pop en violet, je crois. Okay.
Parce qu'il ne faut pas négliger que aussi TikTok devient une plateforme de live aussi, et que du coup, il y a des créateurs et créatrices, moi que je ne connaissais pas, mais 1,5 million, je trouve ça énorme, surtout en francophonie. Et non, c'est fou de voir que tout change tout le temps.
Si vous deviez être un personnage.
Ça met très mal à l'aise.
Donc, Patrick, il veut devenir Bill, parce que visiblement, c'est le futur.
Voilà, moi j'ai pris. J'ai pris mon option, moi, là, sur
Billy Big Deal. Toi, tu veux être Billy Big Deal?
Non. Ah. S'il fallait choisir un personnage virtuel, donc ah, oui. n'importe lequel. Hein.
Ouais.
Waouh, là, tu me prends de court. Je préfère laisser faire un petit tour de table.
Prendre cette option aussi.
Dans Ready Player One, t'as justement plein de persos. Il y a tellement de persos. Incarnent, ils vont faire un monstre ou un. Tu vois?
Bah, je sais pas. J'ai testé VR Chat récemment. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pris du plaisir à être tout petit. Parce que du coup, ça change ta perspective sur les choses.
Ah, c'est rigolo.
Donc, soit un truc vraiment très grand ou tout petit pour vraiment changer la perspective.
Pierre serait
très marrant.
Arthur et les Minimoy. Donc, cette licence incroyable.
Oh, moi, je serais peut-être le Docteur Manhattan parce que c'est un de mes personnages de fiction préférés. Donc,
tout en bleu à poil ou pas?
La tub à l'air.
Patrick, tu veux qu'on en parle?
Je flotterai à 10 cm du sol comme ça.
Non, c'est un
tout nu avec ou avec son slip parce qu'il a les deux.
C'est vrai qu'il a les deux. Je mettrais un petit slip.
Un petit slip quand même. Pouvoir, c'est plus correct.
Voilà. Pas attrapé.
Docteur Manhattan qui pourrait être Bill du Big Deal.
Aussi.
On est sur une thématique bleue, les
on
potes.
On les a jamais vus ensemble.
C'est vrai ça.
Il peut être qui il veut, puisqu'il remodèle les molécules. C'est donc vrai, c'est rien pour lui.
Je réfléchis à un autre personnage bleu. Maintenant. Le dernier, attends.
Un autre personnage bleu.
Un autre personnage tout bleu.
Télétobies, mais ils sont violets.
Avatar, voilà.
C'est moins drôle.
Oh là là, l'enfer.
Mais effectivement, c'est Ibrek sur Twitch. N'hésitez pas à aller checker Ibrek qui refait tout le générique du Big Deal. Non, mais sinon, dernière news, moi, il y avait un truc qui m'excitait pas mal. C'est qu'il y a eu Persévérance. Mais je voulais savoir si, Patrick, tu pouvais nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux rover Persévérance cette semaine?
Ah, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc, on a envoyé un robot sur Mars. Donc, déjà, ça, c'est ouf. C'est pas la première fois.
J'aime bien comme il s'implique. T'as rien fait.
Tu ne sais pas. Peut-être qu'on nous dévoile des choses.
Je ne dis rien. Mais donc, oui, ça paraît presque banal aujourd'hui. Mais on est quand même capable d'envoyer des robots sur Mars alors qu'on est des singes.
Ouais. Et... On parle pour toi déjà.
Et cette fois-ci, il y a un petit hélicoptère qui accompagne le rover parce que Curiosity était tout seul, par exemple. Il est toujours tout seul d'ailleurs. Il y a un petit côté Wally.
Il écoute l'émission comme Madeon.
Qui fait toujours sa petite mission, alors que ce sera plus la star maintenant. Oh. Tous les projecteurs sont braqués sur Persévérance et Curiosity est là. Et depuis 8 ans, il a fait 20 km, donc il est très très lent.
Ah, oui.
Et il faut savoir qu'il n'y aura pas de crossover entre Persévérance et Curiosity parce qu'ils sont trop loin tous les deux.
Non. Jamais, jamais, jamais.
Jamais, c'est pas possible.
Jamais.
Ça m'en rend triste.
Voilà, Curiosity va rester seul.
Ce sera le nouveau Pixar.
C'est sûr. Alors que Persévérance, lui, est accompagné de Ingenuity, qui est un petit hélico. Et le but de cet hélico, qui est un drone, en fait, c'est de tester le vol sur Mars pour voir si donc un hélico ou un drone peut voler dans l'atmosphère martienne, qui est évidemment très différente de celle de la Terre.
Il n'a pas encore fait des tests, ce petit drone-ci?
Je ne crois pas qu'ils l'ont déjà déployé. Mais en tout cas, quand ce sera fait, on aura des photos de Persévérance. De l'extérieur jusqu'à présent, on n'avait que des selfies, par exemple, de Curiosity. Okay. Et là, on verra des photos de loin.
C'est sa perche à selfie.
Ouais.
C'est ça.
Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand le robot s'est posé, donc il y a une photo qui a été diffusée du parachute qui a permis au rover de se poser.
Oui.
Et il y a quelqu'un décrypté, un easter egg. Donc en fait, il y avait des motifs rouge et blanc sur le parachute. Il y a quelqu'un, un Français d'ailleurs, qui s'est aperçu que ça pouvait correspondre à un code binaire. Donc il a converti les patterns en 0 et en 1. Et en fait, le message, c'était « oser faire de grandes choses ». Voilà. Donc la NASA sont très joueurs, ils font des petits easter eggs. Et petit fun fact, donc avec Persévérance, il y a à peu près 10 millions de passagers, entre guillemets, qui sont avec lui sur Mars, parce que l'année dernière, la NASA a proposé aux gens d'envoyer leur nom et leur prénom, donc de remplir un formulaire.
Génial.
Ah ben oui, ça c'est le fameux parachute. Donc les gens ont envoyé leur nom et leur prénom, et on a plus de 10 millions de noms qui sont gravés sur une puce électronique, qui a été ensuite posée sur Persévérance, et actuellement tous ces noms et ces prénoms sont sur Mars.
Donc voilà. Donc s'il y a un martien, parce qu'ils existent, hein, je le rappelle.
Bien sûr.
Donc il trébuche sur les robots. Je fais, putain, mais qu'est-ce que ça fout là? À 30 km, j'ai déjà trébuché sur un robot.
Je suis désolé, j'ai pas précisé l'essentiel. Je suis obligé de le faire.
Ah bah oui, mais fais-le.
J'ai juste pas dit le but de la mission. Donc le but de cette mission, et ça c'est une grande première, c'est de collecter des échantillons de sol martien pour les récupérer dans quelques années. Donc il y a un autre robot qui va partir dans quelques années, qui va collecter ces petits échantillons, tel Wally, vraiment. Okay. Il va les récupérer avec lui. Et ensuite, ces échantillons vont être renvoyés sur Terre. On va pouvoir les analyser. Enfin, le but du jeu.
Peut-être. Peut-être. Si ça se trouve, le robot, il va faire ciao. Maintenant, j'ai les échantillons.
Je les garde.
J'ai plus besoin de vous.
Je les garde.
Je tire moi-même mes conclusions.
En tout cas, s'ils reviennent sur Terre, il y aura des expériences qui seront menées pour éventuellement détecter des formes de vie fossiles dans ces échantillons de terre de Mars. Donc c'est vraiment ça le but ultime, c'est de trouver des traces de vie fossile qui dateraient de plusieurs millions d'années.
C'est génial, ouais. Ça
me ferait beaucoup rire que la NASA, vraiment, il reçoive les échantillons et vraiment, il y a un connard qui met son doigt dedans et qui goûte un peu. Non, c'est très vieux, ça. C'est
Elon Musk qui achète tout, niquez-vous.
Et donc, c'était la semaine dernière, il me semble, et donc j'ai eu la chance d'animer un live Arte pour présenter ce truc-là. Et il y avait le gros suspense, parce qu'on ne savait pas du tout si il allait se poser correctement ou non. Et s'il y avait eu un crash, c'était plusieurs années de travail, évidemment, plusieurs milliards de dollars qui ont été perdus. Donc, gros soulagement du côté de la NASA dès qu'il a touché le sol, évidemment.
Ça peut être vraiment marrant qu'il tombe sur la tranche. C'est un truc vraiment planté, mais pas trop. Ouais. C'est genre, oh putain, si tu es
comme une tortue, tu peux rien faire.
Il y en a un à qui c'est arrivé. Parce qu'il y a plusieurs robots sur Mars. Il y en a un qui s'est vraiment croûté dans une dune. Et il est resté là depuis, en fait.
Moi, mon Pixar, il est sur ce robot-là. Vous faites vos trucs et tout. Ils sont plusieurs. Moi, si je dois faire un film,
la NASA, depuis la Terre, ils ont essayé de le déplacer. Puis ça n'a pas marché. Donc, ils ont vraiment dit ciao. Et le robot est dans sa dune depuis.
Ça fait trop mal.
3-4 ans. Ouais. C'est triste.
Oh non.
Et vous, ça vous fait rêver, moi? Enfin, moi, j'allais dire moi.
Oui, ça vous fait rêver.
Ouais, ça vous fait rêver, moi, pas mal.
Ça vous fait rêver, l'espace?
Ouais, franchement, je trouve ça incroyable. En fait, t'as tellement de choses à découvrir. Bon, il y a beaucoup de choses sur Terre, dont les océans, les fonds marins,
bien sûr,
à voir, mais je trouve ça fou qu'on arrive, en fait, à aller là-bas, en fait.
Ouais. C'est incroyable.
Et je trouve qu'on est tellement habitués parce qu'on a grandi, on est né dedans, qu'on se rend pas compte d'à quel point c'est déjà super récent et tellement infini, inimaginable. Enfin, je trouve ça génial.
Je connaissais pas exactement les rouages du voyage dans l'espace et j'ai vu le film de Damien Chazelle, First Man.
Ah oui,
c'est vrai.
First Man. Ouais. Et donc moi, je savais pas que, en fait, pendant que les gars ils marchaient sur la Lune, t'avais les autres connards dans l'espace qui faisaient des tours de la Lune pour les récupérer, en fait. Ils faisaient des tours en rond comme ça, ils attendaient, c'est bon, tu repars, et ensuite ils récupèrent dans l'orbite de la Lune pour repartir. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là ça commence à être sur des plans assez fous de mettre en plus des gens vivants là-dedans. Ouais. C'est dingue, quoi.
Il y a une photo mythique où on voit donc la Lune et derrière la Terre. Et donc, le gars qui a pris la photo, c'était le troisième dont on ne parle jamais, puisque sur la Lune, pendant ce temps-là, il y avait Neil Armstrong et Buzz Aldrin.
C'est le community manager, on l'appelle. C'est le gars qui fait un peu les réseaux sociaux.
Et donc, il y avait un troisième gars qui était dans le vaisseau qui orbitait autour de la Lune pour les récupérer, qui a fait une photo. Oh là et là. Dans le cadre de la photo, il y a toute l'humanité, sauf lui.
C'est fou.
Donc, c'est sans doute le pire moment de solitude de toute l'histoire de l'humanité.
Alors, si je puis me permettre, ce qu'il y avait derrière la planète Terre également... les gens qui étaient cachés derrière, où ils faisaient.
C'est vrai.
Voilà.
Mais potentiellement, en tout cas, ils étaient au moins sur la planète qui était dans le cadre.
En tout cas, ils étaient dans le cadre, tu as raison.
Mais lui, non. Ouais.
C'est... Non, parce que je disais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me met dans une frustration énorme, en fait. Moi, j'avais regardé Cosmos de Neil deGrasse Tyson, qui explique un peu tout comment ça se passe. Et vraiment, c'est infiniment grand, me met presque dans une colère ou dans un truc de frustration, genre je ne suis qu'humain.
Ouais.
Et tout ça me dépasse quand il dit ouais, on pourra y aller, mais ça fait 2 millions d'années-lumière. Et je suis genre, je n'accepte pas en fait.
Cours plus vite,
ça me rend fou, tu vois. Et ça me met dans une espèce de vertige. Et souvent, quand je pense à l'espace ou un truc comme ça, j'ai vraiment ce côté de wow. Et je suis pas du tout à l'aise avec ça.
Mais Neil deGrasse Tyson, il dit un truc super beau. Il dit que quand il regarde l'espace, il se sent pas petit, lui. Parce que c'est vrai qu'on fait partie de l'univers, mais l'univers fait partie de nous. Et en fait, nos atomes viennent très concrètement, c'est pas de la science-fiction, viennent des étoiles. Donc, l'univers fait partie de nous.
Et c'est lui, beau.
Mais ça m'énerve quand même.
On n'a jamais eu ce genre de discussion dans l'émission, Patrick. C'est une grande première.
Avec plaisir.
Non, c'est dingue. Et d'ailleurs, je suis obligé de penser, de faire un petit big up à Dev du Dimanche, qui est venue ici dans l'émission et qui est développeuse et son futur projet. Elle a sorti un jeu vidéo voilà, développé à deux. Et là, son nouveau jeu vidéo, c'est sur un robot justement qui est envoyé sur une planète. Et du coup, il faut gérer toutes les ressources, etc. Génial. Améliorer tes petits équipements de robot.
Elle est trop forte.
Et c'est vraiment, j'ai vu un petit peu ses mock-up et tout qu'elle sort sur, bah, sur les réseaux, sur sa chaîne YouTube que j'adore. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est le meilleur concept et j'ai trop envie de voir ce jeu-là parce que, bah ouais, au début, t'as une vision un petit peu altérée. T'essayes de récupérer d'un autre robot un truc pour améliorer ta vision, ton je sais pas quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est
smart.
Ouais, il y a un truc. En plus, son robot, et, tu vois, il est tout simple et tout. Il se déplace, il ressemble vraiment à ceux qui existent, ceux qui ont été envoyés. Mmh. Mais il y a déjà un truc hyper attachant. Même globalement, tous les robots qui sont envoyés sur Mars, ils sont trop cute en fait. Tu vois,
bien sûr.
Je sais pas s'ils pensent au truc genre, attends, il faut qu'il y ait un peu plus de roues ou quoi. J'imagine que la somme des scientifiques ont fait un truc mignon au final.
Bien mais sûr. C'était une sonde ou un robot qui avait envoyé un dernier tweet ou je sais plus quoi, et tout le monde était désespéré. Je sais plus. Non, c'était quoi, plus.
Ça, c'est Thomas, quoi Thomas Pesquet. Les tweets dans l'espace, c'est Thomas Pesquet.
Non, j'ai plus. Il y avait tout le monde qui était sur Twitter. Genre, oh non, c'est le dernier signe de vie qu'on aura de cette chose-là. Je sais plus si c'était une sonde ou un rover. Je sais plus.
Je sais plus.
Ah, le rover Spirit.
Ah, d'accord.
Qu'on embrasse également.
Et je crois qu'il y avait un compte Twitter. Et je me rappelle, je crois qu'il avait envoyé un dernier tweet. Et c'était ciao.
En tout cas, Curiosity a un compte Twitter. Et Perseverance aussi. Donc, c'est le robot tweet. Alors, c'est pas eux qui tweetent. Mais ils ont des comptes Twitter. Et ils envoient régulièrement des photos. Et ça, quand même, de recevoir des photos en 4K de Mars. Il y a des gens qui galèrent pour avoir la fibre, par exemple.
Dans le métro.
Tu veux parler de ton expérience, par exemple, Patrick?
Pas ça. Qu'on reçoive comme ça des images de Mars quand on a du mal à avoir des connexions correctes sur Terre. Enfin, voilà.
Parce qu'on a combien d'années de Mars?
Il y a quelques dizaines de millions de kilomètres. En fait, ça dépend de l'orbite, évidemment, parce qu'elles sont plus ou moins proches. Selon, on peut y aller que tous les 26 mois, il me semble, profite du moment où les deux planètes sont le plus proches, évidemment, pour économiser du carburant. Donc voilà, il y a une fenêtre tous les 26 mois pour y aller.
Et il faut combien de temps, du coup, avec une petite fusée?
C'est 7 mois.
7 mois ?
7 mois, oui.
Donc Perseverance, c'est chill pendant 7 mois dans l'espace.
Exactement.
Et ensuite, elle peut se poser.
C'est ça.
Ah, c'est fou. Non, mais c'est un vertige. Voilà. Non, après, c'était pour. Je voulais que tu réagisses à ça, parce qu'en plus, génial. Tu as participé justement à ce live Arte. Et c'est cool de te voir dans ce genre d'exercice, parce qu'on a vu que tu avais fait aussi. Tu es allé à l'ESA.
Oui, avec Jules Fou d'ailleurs.
Avec Jules Fou. Ouais, ouais.
On était allé au centre d'entraînement des astronautes et on avait testé l'entraînement des astronautes.
Il y a un côté très Camoulox, ça. Imaginez Julien Josselin faire les entraînements des astronautes.
On s'était partagé les différents entraînements et donc Jules Fou, clairement, avait perdu puisqu'il avait eu la chaise rotative qui fout la gerbe en 30 secondes. Et donc c'est très marrant parce que dans la vidéo, on le voit vraiment blanchir à vue d'œil. Il est très très mal. Et moi, donc j'avais fait la piscine des astronautes, donc au fond de la piscine de l'ESA. T'as une réplique à l'échelle de la Station Spatiale Internationale, et donc ils utilisent cette piscine pour faire des simulations de réparation dans l'espace, quoi. Et donc j'avais plongé en costume de cosmonaute dans la piscine, et c'était une expérience folle. Donc effectivement,
quelles ont été tes difficultés à te mouvoir dans une tenue de cosmonaute? C'était facile ou
alors
tu te sens pas trop engoncé dedans?
Honnêtement, en fait, moi j'avais une combinaison de plongée et par-dessus une combinaison d'astronaute.
Ouais,
donc sur Terre c'est compliqué. Par contre, évidemment, dès que t'es dans l'eau, il n'y a plus de problème hein, puisque tu flottes. Mais c'est vrai que c'est pas très confortable. Ouais. Et il y avait Thomas Pesquet. Il n'était pas encore parti dans l'espace à ce moment-là. Et il avait participé à notre vidéo.
Il était
venu dire des conneries devant la caméra, ce qui est vraiment incroyable parce que ce mec est une espèce de super-héros. Et en plus, il est sympa. Donc voilà.
D'ailleurs, vous pouvez lire la bande dessinée de Marion Montaigne
je voulais en parler justement. Donc, une bande dessinée sur le voyage de Thomas Pesquet et aussi un petit peu sa vie, son œuvre. Et c'est marrant parce que ils ont évoqué un truc qui me titillait, c'est que moi, par exemple, j'ai vite chaud, etc. Ok, d'accord. Donc, je viens souvent en vélo, je pue la merde, je suis désolé, tu vois. Et du coup, je me dis, mais quand t'es dans l'espace et que je sais pas, les douches, les trucs, même juste le fait d'avoir une tenue. Moi, mais ça pue la mort, tu vois. Il y a tout un chapitre dessus où il dit vraiment que ça pue la merde et que sa transpiration, ça reste dans sa tenue et que c'est en fait quand il doit faire les comment dire, quand ils sortent de l'ISS pour aller faire des petites manipulations. Ils disent que quand ils rentrent et tout, mais genre c'est idiot, c'est ignoble en fait les odeurs. J'ai fait j'en étais sûr.
Ça déconstruit pas mal de choses sur la bouffe, sur le caca.
Ouais, parce qu'on n'est pas très en situ, on ne sait pas en fait.
Anecdote sur ce qui se passe là-haut. Donc, quand on était au centre d'entraînement, on nous a parlé d'un cosmonaute italien qui a vécu une situation horrible dans l'espace. Donc, c'est la situation la plus stressante qu'on puisse imaginer.
Il a perdu les clés.
Alors, Antoine, c'est pire que ça. Donc, il était dans l'espace, à l'extérieur. Il faisait une opération extravéhiculaire, comme on dit. Ouais. Et puis, tout à coup, il a senti qu'il y avait comme du liquide qui était en train de monter dans son casque. Oh. D'accord ? Donc là, il explique la situation. Il dit, j'ai de l'eau qui monte là, donc je vais sans doute me noyer. Qu'est-ce que je fais ? Et en plus de ça, à ce moment-là, il s'est retrouvé dans le noir complet, puisqu'ils sont passés derrière la planète et ils n'étaient plus éclairés par le soleil, donc il n'y voyait plus rien, l'eau était en train de monter.
Il y a le flash de l'iPhone, il aurait dû utiliser le flash. Alors moi je fais ça.
Et donc il savait plus quoi faire, il était vraiment à l'aveugle avec cette eau, donc finalement ils ont réussi à comprendre que c'était le liquide de refroidissement de la tenue qui était en train de fuir.
Oh, la vache.
Et le mec s'est concentré, il a réussi à retourner dans le véhicule, et ce qui est ouf c'est que donc à l'intérieur ils avaient tous les capteurs etc. pour savoir dans quel état le mec était, et son pouls a à peine augmenté. Donc on parle de gens
le sang-froid.
Qui sont vraiment comme des super-héros, parce qu'ils s'entraînent des années et des années, et c'est généralement des gens qui ont un contrôle d'eux absolument total et qui s'entraînent justement à vivre les pires situations. Donc voilà, la prochaine fois que vous aurez une situation stressante dans votre vie, imaginez que vous pourriez être dans l'espace en train de vous noyer et aveugle.
Ah ouais, la vache.
Ce mec-là, il lui arrive des drames familiaux ou quoi, il fait bah, c'était mamie, hein. quand même. Ouais, ouais, bon, on passe à la suite, tu vois. C'est fou, quoi.
Ah, c'est le...
Tu vois, quand les gens disent j'ai vécu pire, lui, il a vraiment vécu.
Oui, lui, il a hold my beer.
Ouais, vraiment, se noyer. Dans l'espace. C'est pas vraiment, t'as un truc, une dissonance. Tu... Ouais. Non, ça n'arrivera jamais.
Pas avoir un moment de panique, enfin, le self-control là-dessus, c'est incroyable.
Je peux pas imaginer, quoi. Mais c'est pour ça, justement, de cette bande dessinée, tu vois un peu tout leur entraînement où, justement, bah, y a... soit ils vont aux États-Unis, soit ils vont en Russie. Enfin, tu vois les différences, les Russes, comment ils traitent les choses, quoi que ce soit. Et c'est impressionnant.
Un des trucs passionnants dans la BD, justement. D'ailleurs, c'est génial de faire une BD comique plutôt que faire un bouquin avec tout ça, tu vois. Donc déjà ça montre un petit peu le personnage ce qui m'a étonné c'est qu'il parle un milliard de langues, Thomas Pesquet.
Ouais.
Ça m'étonne presque plus que de partir dans l'espace en fait. Il dit juste littéralement au quotidien je parle russe et allemand, pour moi c'est déjà impossible. Ce n'est pas possible, il faut Google Traduction pour parler ces deux langues en l'occurrence.
Et il fait du saxophone en plus. Genre ça c'est cadeau.
J'espère que c'est un peu nul. J'adorerais avoir un truc de Thomas Pesquet un peu claquasse, tu sais, au saxo. Tu sais, il y a des mecs, ils ont une passion et quand t'écoutes, tu fais ouais, ok, ça te fait plaisir, mais qu'à toi, tu vois. J'adorerais que ça soit ça pour le saxo. Mais bien évidemment, si on trouve un extrait, c'est une grosse tuerie. Ah,
mais c'est sûr.
Mais
c'est sûr. Faire le solo de George Michael.
C'est un des Daft Punk d'ailleurs. C'est pour ça qu'il repart en mission.
Il est fan d'électro d'ailleurs. Il en parle.
Bon, on arrête de parler de Thomas Pesquet.
Non, pour les dernières news, il y a plein de choses, mais ça s'avance. Non, juste pour dire qu'il y a le Speedon ce week-end, un événement caritatif de Mister MV qui aura lieu. Donc, c'est un événement de speedrun pour récolter des sous pour Médecins du Monde. Donc, soyez là sur Twitch. Donc, c'est tout ce week-end. Donc, voilà, on lui souhaite bonne chance. Bon, après, il y avait les news Pokémon et tout, mais je pense qu'on peut avancer sur
T'as dit Pokémon.
Oh là là là.
Non, parce que là, il y a une annonce Pokémon.
Ah oui. Toi, t'es un gros joueur, mais est-ce que tu es tombé dedans ou tu es passé à côté?
Alors,
ou t'es entre les deux?
Je suis juste passé à côté. Je suis juste de la génération qui arrivait trop tard pour Pokémon.
C'était quoi la grosse licence de ta life? On en parlait juste avant l'émission, tu es un joueur très régulier.
Depuis, je pense que je joue aux jeux vidéo depuis, attention, tenez-vous bien, depuis 1985, je dirais. Voilà, donc j'ai commencé. J'ai vu qu'Adrien Méniel a fait une vidéo chez Combini, là où il parlait.
Oui, je regarde.
Donc on a eu le même parcours de vie, c'est-à-dire que quand on était gosse, on voulait l'Atari 2600, tous les deux, qui est vraiment. Dites-vous que cette console est partiellement en bois. Ça vous donne une idée de notre âge avec Adrien. Et
c'est vrai qu'il y a
du contreplaqué par-dessus. Bon, et donc on voulait cette console tous les deux, et nos pères respectifs, qui ne se connaissaient pas, nous ont acheté la Mattel Intellivision, qui était un peu la sous-Atari 2600. Voilà, donc ensuite, moi j'ai eu la Master System, j'ai eu la Mega Drive, j'étais très Sega, puis la Super Nintendo, la Nintendo 64, etc. Et là, la dernière console, si on peut dire que j'ai la Switch, mais j'ai surtout l'Oculus Quest, donc on en parlait en antenne, qui est vraiment une claque. Et je suis très heureux d'avoir connu, du coup, les consoles 8-bit et même celles d'avant, parce que je peux vraiment savourer cette évolution. Voilà, j'avais cette console-là, absolument. Et donc, je suis passé d'un jeu dans lequel il y avait 4 pixels qui se couraient après à un monde virtuel dans lequel tu peux te déplacer physiquement, et je suis vraiment très heureux d'avoir connu cette évolution.
Je pose la question, quand tu nais aujourd'hui et que du coup ta console, c'est la PS5 et l'Oculus Quest 2, 3.
La marge de progression.
Est-ce que tu sais apprécier, quel est ton regard, selon vous, sur les vieilles consoles, sur par exemple l'Atari 2600
et ben, je me pose souvent la question, j'aimerais bien le savoir.
On va aller interviewer un nouveau-né.
Non, je pense que ça dépend ce que tu projettes. Quand tu vois la nostalgie, même, tu vois Stranger Things, ça parle de nostalgie, mais adhèrent ça, mais t'as jamais vécu cette époque-là, tu vois.
Très bien pourtant, ouais.
C'est ça, comme les vinyles, peut-être on va trouver un charme où tu vas projeter des choses sur le pixel, une espèce de magie, un truc beau. Le pixel art, ça existe.
Il y a toujours un attrait vers le rétro. Tu regardes, par exemple, moi je sais que c'était le vieux rock. Je suis pas née, par exemple, forcément, quand Slayer passait, il était vraiment bon, mais pourtant, j'adore AC/DC, Queen, etc. Et je pense que c'est peut-être pareil pour les jeux vidéo.
Ouais,
c'est un goût particulier, en fait.
Il y a une sorte de truc un peu refuge où tu sais que c'est la base. Et aussi, aujourd'hui.
C'est culturel aussi.
Ouais, les jeux, ils partent parfois un peu dans tous les sens, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez bien dans les jeux un peu plus rétro où, tiens, ce jeu-là, il fait ça, tu vois. Et
puis de la contrainte naît parfois du gameplay. Enfin, je sais pas, t'arrives là, PS5, ok c'est beau, mais qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois, enfin je vois dans les triple A il y a des trucs un peu souvent Assassin's Creed, ok je vais faire mes tours de vision et trucs comme ça, et d'un truc où il y a une contrainte, t'as un gameplay différent, t'as d'autres choses différentes, et je sais pas, je pense que tu peux trouver.
Je pense à Baba Is You par exemple, qui est un jeu dont les graphismes franchement sont dignes d'une Atari 2600 et pourtant le concept est tellement
brillant, c'est un graphiste qui parle, attention hein.
Le concept est tellement brillant que c'est génial, et je pense qu'aujourd'hui les gens qui ont grandi directement avec le PlayStation 2, 3, 4 voient les jeux en pixel art comme des jeux avec un parti pris artistique.
C'est ça.
Alors que avant c'était juste
la
des
contrainte.
Contraintes techniques.
On voulait faire mieux. Tu demandais à n'importe quel développeur, tu veux faire de la 3D, les gars ils faisaient oui, mais c'est pas, ça n'existe pas encore, monsieur.
Très marrant pour la musique aussi. Aujourd'hui c'est un parti pris artistique. Alors qu'à l'époque ils n'avaient pas le choix de faire des jeux avec, enfin des musiques avec des sons limités.
Ouais, et c'est devenu le patrimoine du jeu vidéo en fait.
Mm-hmm. C'est ça.
C'est-à-dire que maintenant ce son là, ce truc, et tu vois, ça t'apporte quelque chose et bon après forcément quand t'as les moyens aussi tu fais des bandes son de bâtard, tu vois, mais bon oui, non mais voilà,
non je pense que c'est les vases communicants en vrai, et chacun voit midi à sa porte et voilà. Mais il y a des belles anecdotes sur les sprites aussi à l'époque où justement fallait rentrer tant de pixels dans les trucs comme ça, où ils disaient on va sacrifier ce pixel là pour Mario, je sais plus
pour Mario t'as
la casquette ou je sais plus,
t'as les nuages qui ont les mêmes motifs que les arbres. Donc du coup c'est le même motif, tu vois, c'est juste qu'il change la couleur. C'est ce genre de petite économie.
Je trouve que c'est un cachet. En plus surtout quand tu le sais, tu vois, tous ces trucs-là, ils sont encore mieux de le voir après.
Alors dans un registre, moi avec l'équipe de un studio que j'ai monté avec des amis qui s'appelle La Gamerie, on a fait un jeu mobile. D'ailleurs, des prochaines mises à jour qui arrivent bientôt, qui s'appelle le dernier en date s'appelle Make More Views. Et en fait, le graphiste bosse, enfin le directeur artistique bosse énormément sur l'optimisation pour que le jeu tienne dans juste un petit un petit téléchargement. Et en fait, les optis, mais c'est des trucs de malade mental, où sur une même texture, t'as des trucs qui sont réutilisés. Donc tu vois le jeu, tu vois plein de personnages, plein de trucs, plein d'objets. Et en fait, un objet, c'est quatre objets mélangés pour t'en faire un quatrième, enfin tu vois, un nouveau, un cinquième, quoi. C'est assez fou de voir l'opti, en fait, comment ça marche, quoi.
Mmh. Dans la série Netflix, justement, documentaire sur les jeux vidéo, ils en parlent un petit peu de ça, les contraintes techniques. C'est trop intéressant à regarder. Ouais. Donc du coup, juste pour dire, il y avait Pokémon qui font des remakes de Perles. Et Diamant. Donc moi, c'est pas ma génération.
C'est pas mes préférés.
Je connais pas. Et du coup, il y a le New Pokémon Snap. Donc, Pokémon Snap, ce qui était. On est sur un truc Safari, on prend des photos. Mais surtout, le jeu que tout le monde un peu fantasmait depuis longtemps, c'était bien évidemment le Pokémon dans un monde un peu ouvert. Donc, ça s'appelle Pokémon Légende. Et du coup, ils ont diffusé quelques petits extraits.
Ce qui est
génial. C'est vrai qu'on a rêvé de ça longtemps.
Il y a un petit style un peu Japon féodal qui est assez stylé, tu vois. Donc, cool. Ils ressemblent pas à des samouraïs, mais en tout cas, ils ont des styles un peu à l'ancienne. Ouais. Et donc, ça se passe avant.
C'est ça.
C'est un peu l'origine des Pokémon légendaires, j'imagine.
J'imagine. Moi, je suis très nul.
Et je croyais que le parti pris était vraiment génial. Par contre, je sais pas si c'était un bug.
Au niveau des FPS.
Au niveau des FPS, tu voyais vraiment les limites techniques, mais c'était flagrant. T'avais des Pokémon au loin, mais c'était genre 8 pixels qui se battaient. Et c'était Baba Is You au fond. Tu vois.
Ils veulent reprendre. Ils font mille mouvements en partie.
Ah, c'est rétro.
C'est rétro. C'est semi-rétro.
Japon féodal, un peu rétro.
Mais c'est bien qu'ils fassent ça, parce qu'il y a eu Temtem. Tout le monde était très très content. Bon, Temtem qui a disparu.
Oui, d'un coup.
Complètement disparu.
Temtem, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un Pokémon like,
vraiment,
c'est ça?
Ouais, un Pokémon
mais monde ouvert.
Like, monde ouvert, un peu plus difficile.
MMO,
ouais, c'est ça.
Mais du coup, ils ont enfin, ils se sont dit, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose.
Mais après, des trucs, c'est moi j'aurais tué père et mère pour avoir ça dans mon enfance. En fait, face Pokémon, c'était mon rêve absolu. Tu vois, je faisais limite des fanfictions sur mon truc Excel. Enfin, pas Excel, mais sur Word, tu vois. Mais là, maintenant, je vois ça. Je suis genre, trop tard. C'est genre, mais ouais.
Je suis très surpris qu'il n'y ait pas eu de Pokémon en monde ouvert avant maintenant. Parce que ça semble évident, en fait. Quand par exemple, Breath of the Wild, le fait que tu doives trouver tous les animaux pour remplir une espèce d'album photo, ben, on imagine forcément la même chose avec du Pokémon.
Bien sûr.
Tu te balades dans un univers gigantesque et puis tu essaies de capturer tout. Ouais, ça paraît évident. Ouais.
Mais bon, on va voir ce que ça donne et tout ça. Mais moi, je sais pas. On va voir.
Pierre, je te le dis, tu veux l'acheter, tu veux y jouer.
On va y jouer ensemble, Pierre. Tu le sais, tu peux m'envoyer un racaillou, s'il te plaît.
Je veux bien. Hein. S'il y a un autre confinement et Pokémon en même temps, ça, c'est comme Animal Crossing, je suis chaud.
Confiné pendant le. C'est ça.
Bon, on a dit dans longtemps.
Animal Crossing pendant le confinement, il m'a sauvé.
Ça a bien sauvé le confinement, clairement.
Toi, t'avais eu pendant le confinement le jeu.
Bah alors moi c'est ma compagne qui était vraiment droguée d'Animal Crossing pendant le confinement, et ce qui est très marrant c'est que
quelqu'un de très bien en soi.
Pendant le confinement, elle était confinée dans une maison virtuelle à l'intérieur de sa propre maison, donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça. Mais moi, est-ce qu'il y a un jeu? Ah oui, bah justement, on parlait du Quest tout à l'heure. Pendant le premier confinement, très régulièrement, je faisais par exemple des tennis ou des ping-pong avec des potes qui avaient eux aussi le Quest. Donc beaucoup d'activités d'extérieur dans le jeu. Et on en parlait tout à l'heure, EcoVR, donc cette espèce de sport futuriste qui est un mélange de frisbee, de handball, dans lequel tu flottes dans une grande salle comme ça à la Tron. Ça, on pouvait y jouer jusqu'à 6, il me semble, en simultané, donc avec de vraies personnes. Et c'était incroyable de faire des activités comme
Je suis obligé de demander, mais est-ce que c'est vraiment physique?
Ah mais vraiment, attends, je me suis carrément déboîté un truc moi, je suis allé chez le kiné et je lui ai expliqué la manœuvre, je lui ai expliqué que j'étais posé comme ça, puis j'ai fait un mouvement rotatif, il m'a dit ah ouais mais ça c'est typique, c'est je sais plus quel os, si vous avez fait ça, donc vraiment.
Mais Patrick, comment t'as pu rentrer dans un costume de cosmonaute, aller dans une station sous l'eau et te déboîter en jouant au VR, c'est incroyable quand même.
J'étais un petit peu rouillé pendant le confinement, je vais pas vous mentir.
C'est vrai. Mais ouais.
Enfin, moi, je faisais, et je continue à en faire, mais le jeu de sport Ring Fit Adventure, là, sur Switch, moi, c'est mon activité sportive, en fait, je me suis mis au
mais
sport.
Mais il paraît
que
c'est bien, j'hésite à en faire, justement, aussi.
Bon, voilà,
franchement, c'est l'air cool, même. J'ai envie de faire ça à ma meuf, mais bon, c'est pas myopathe friendly, c'est sûr, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi, tu vois, mais ça a l'air d'être trop bien, quoi. Vraiment, l'arceau, je trouve ça tellement smart. Et Nintendo, à chaque fois, ils ont toujours l'idée trop cool, quoi. Yes. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, dans le confinement,
les gens sont très trigger
social, quoi.
Très trigger par le handball, où il faut dire handball.
Désolé.
Il faut être un peu plus précis, s'il te plaît. Hein, parce on va vérifier tout ce que tu as dit sur les robots dans l'espace, parce que là, on est plus très sûr. Vous avez testé, vous, les petits retours des.
PS5,
un nom, retour haptique, je sais plus comment ça s'appelle, sur la manette de la PS5. Les gâchettes sont plus ou moins dures en fonction. Et moi je suis pas spécialement fan de jeux de tir, mais j'avais lancé en ce moment il y a Control, le jeu Control qui est le jeu gratuit du mois si vous prenez l'abonnement PS Plus, et vraiment quand tu tires tu sens vraiment le c'est bizarre
la résistance,
en fait, et c'est surtout c'est par à coup, donc tu vois vraiment ta gâchette qui descend par à coup comme si vraiment tu avais un petit retour, quoi. Et voilà, je trouve ça assez c'est pas incroyable, mais ça rajoute.
Moi, j'ai un gilet vibrant.
Ah, putain,
non,
c'est vrai que
pour mon Quest.
Attends, quoi?
Non.
Alors, je savais même pas que ça existait.
Si,
c'est
ça
génial.
Existe. Alors, donc, c'est un gilet qui est rempli de capteurs, quoi. Et donc, quand tu te fais toucher, par exemple, dans un jeu de tir, la zone qui a été touchée sur ton corps vibre.
Mais Patrick, tes potes avec Thomas Pesquet, c'est quoi tes choix où tu te retrouves avec une veste vibrante?
Et en plus, dis-toi que quand je l'ai acheté, il n'y avait que deux jeux qui étaient compatibles avec, mais je m'en foutais, je voulais vraiment vivre cette expérience.
Les deux étaient porno, j'imagine.
Écoute même pas. Je voulais vraiment vivre ce truc à la Ready Player One. Ouais. Et donc, c'est compatible avec un jeu de boxe, notamment, qui s'appelle Thrill of the Fight, qui est incroyable. Et donc, quand tu prends, par exemple, un crochet au foie, tu le sens vraiment. Tu vois.
Et tu peux régler l'intensité de la vibration.
Tu peux régler l'intensité de la vibration.
Tous les arguments pour ne pas avoir ce truc-là.
Mais c'est génial.
Pour moi, un jeu vidéo, c'est justement tu
prends du plaisir.
Ouais. On donne un coup et tu ne le ressens pas. C'est l'idée, tu vois. Parce
que dans Ready Player One, justement, ça me fait péter un câble où le mec se prend un coup de pied dans les burnes et t'es genre bah frérot,
pourquoi simuler ça?
Ouais,
bien sûr. Et bien maintenant, grâce au slip vibrant. Pierre,
non mais faites pas ça. Bon après,
on peut jouer au juste prix.
Bien sûr.
Ok, 600 €.
Ah, pour son gilet?
Ah, je dis 1 000 €.
1 000 €?
Ouais,
non, même 600, je suis allé trop. Là.
Attends, j'essaie de me rappeler combien je l'avais payé.
Attends, c'est beaucoup quand même. Pas. Attends, c'est un truc Kickstarter, un peu sous.
Non, c'était pas Kickstarter, c'était un produit officiel.
Mais c'était il y a combien de temps?
Peut-être
Moi, je l'ai acheté l'année dernière. Par contre, j'ai plus le nom de la marque en tête, mais.
Ah, 400
balles. 400 balles. 400 balles.
Il me semble que c'était 400.
Mais merde. Ah,
parce que 600, c'est énorme. Ouais, ouais. Même 1000.
Même 1000, ouais, c'est une voiture. Il y a un pot d'échappement et tout.
C'est un téléphone. Je me dis qu'on fait un
c'était 400 balles.
Oui.
Mais l'accessoire ultime, ah, que je n'ai pas pu acheter, je vais vous expliquer pourquoi.
Et qui s'insère précisément.
Voilà. Donc, c'est un masque qui simule les odeurs.
Ah non.
Et donc, ça avait été kickstarté pour le coup. Donc,
t'as mis des thunes dedans.
Non
Patrick.
Seulement. Non, parce que. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, mais vraiment, je l'aurais fait. Donc, le masque simule des odeurs en mélangeant des composés chimiques. Et donc, tu peux, c'est un peu comme une imprimante finalement, mais olfactive. Okay. Donc, en mélangeant quelques substances chimiques, tu peux créer toutes les odeurs. Et en plus de ça, ça simulait aussi la chaleur, le froid, des gouttes de pluie. Enfin bref, vraiment pour une expérience immersive de ouf. Et donc, le truc était terminé. Ils allaient l'envoyer. Et là, donc, je crois que c'est la FDA, dans la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui a dit non. Parce que c'est un peu comme des vapoteuses finalement, donc vous n'avez pas le droit de sortir ce truc là, il faut complètement changer le concept. Donc les gars l'avaient vraiment déjà construit, ils étaient sur le point de l'envoyer.
Oh, les pauvres.
Et là je sais pas où ça en est, sans doute que le cerveau de ruche de Twitch va nous trouver ça très vite, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était le gadget ultime quoi.
Tu sais que là Patrick, vendredi tu sors ton Kickstarter là, ton financement participatif,
oui.
Tu vas avoir 0 euros là parce que les gens ils se disent mais où part l'argent de ce truc là? Ouais. C'est dans des trucs où.
Du coup, le prochain achat, c'est le tapis, là.
Ouais, le Omni.
Oh là là.
Ça a l'air génial.
Ah oui, parce que ça, en plus, c'est accessible.
Si j'étais dans ton entourage familial, je t'en voudrais, en fait. Je dirais, il me déteste.
Il fuit. Rester dans son bureau, là.
Il fuit les responsabilités. Il met une veste. Il veut sentir d'autres odeurs que les miennes.
Bien sûr.
Street View en VR, il est là toute la journée.
Non, mais c'est vrai que le tapis existe. Et en plus, c'est pas hors de prix. Très longtemps, c'était hors de prix. Là, c'est accessible, tu vois.
C'est combien? Parce qu'il me semblait que
c'est très cher. C'est en dessous des 1000 euros.
Ah ouais?
Pas un truc de fou non plus.
Je pensais que c'était très cher ça par contre. Mais...
Je rebondis, on parlera jamais de voyage en jouant dans cette émission, mais je rebondis sur. Est-ce que vous vous rappelez de cet objet promotion?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Pendant qu'ils ont sorti sur le jeu de le RPG South Park où c'était un truc olfactif qui se branchait sur le nez, donc c'est assez ridicule parce que ça se mettait vraiment que devant le truc comme ça. Et en fait, dans le jeu, le personnage, enfin Cartman pète, c'est une de ses attaques, et du coup, t'avais des odeurs de paix en même temps.
Génial,
super. Quel plaisir.
Ça te plaît ce genre de produit?
Non, là, je passe mon tour. Là. Paix de Cartman, ça ira.
Non, mais du coup, cet objet doit être un peu collector parce que c'est finalement des rares objets olfactifs.
Squeezie l'avait testé à part.
Oui, je m'en rappelle.
Mais est-ce que c'est vraiment le sens que j'ai envie de stimuler en premier, l'odorat? Je suis pas sûr.
Avec des paix, quoi. Enfin, peut-être envie de sortir un truc plus sympa.
C'est pas pour l'immersion.
Quand t'as, j'imagine, t'as le son, ta combinaison vibrante et tout, il te manque que ça finalement, non? J'ai l'impression.
C'est le dernier sens qui n'est pas stimulé parce que tu as la vue, l'ouïe, du coup le toucher. Ah, il faut aussi le goût, tu vois, donc tu peux peut-être bouffer un truc en même temps. Et là, tu sais, quoi, vraiment.
On sort une pince qui est reliée à ton ordi.
Si je suce des NHL, quoi.
Tu dois la mettre dans ta bouche, Patrick, il achète, c'est incroyable.
Est-ce que t'es très Kickstarter du coup, toi? Est-ce que t'as des conneries ou t'as backé et...
Ouais, là, j'attends un truc que j'ai backé l'année dernière. Donc, c'est une espèce de gadget qui permet de hacker des trucs, genre des portails automatiques.
Prison, Patrick. Hein.
C'est un gadget, j'ai oublié le nom, mais c'est un gadget qui te permet vraiment d'interagir avec les objets connectés.
Tu utilises le mot interagir alors que 2 secondes avant, tu fais tu peux pirater.
Tu peux hacker les
avec les objets connectés autour de toi, mais ça peut être les télévisions, ça peut être les ordinateurs. Donc, vu que le truc a l'air légal, je pense que tu peux pas non faire tout ce que tu veux.
Non, Patrick. Mais c'est pas parce qu'aux Philippines, ils font un Kickstarter que c'est légal ici. Tout bien. D'ailleurs, il y a longtemps, il y a des années, il y avait des petits boîtiers pour éteindre les télés à distance.
Moi, j'en ai un, perso.
C'est fou, Patrick. C'est quoi ton problème?
Mais oui, mais quand tu vas au resto ou tu vas dans un bar et puis le son est trop fort, tu l'éteins tranquillement. Et personne
ne sait. Quelle dissidence! C'est incroyable!
Mais moi, je trouve ça génial!
Ouais?
Bon, mais je veux ça, je veux ça.
Et cette petite télécommande a vraiment été interdite sur le marché très rapidement parce que du coup, les gens, ils allaient dans les FNAC et ils étaient tout.
Patrick, à terme, tu veux juste ouvrir les portails des gens enfin, c'est juste quelle est la finalité.
En fait, ce truc, ce petit objet, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais apparemment, vraiment, le champ d'application est très très vaste. Donc, en fait,
mais tu vois, de pire en pire.
Tu lances le truc. C'est un peu comme quand tu cherches un Wi-Fi avec ton téléphone ou avec ton ordi. Sauf que là, potentiellement, tu peux accrocher n'importe quoi autour de toi. Genre, vous êtes en contact avec un portail automatique, vous êtes en contact avec une clim, et voilà ce que vous pouvez faire avec. Donc j'ai très hâte de voir si ça marche ou pas, ça a l'air vachement bien. Donc je vous en reparlerai. Si
moi je veux une vidéo là-dessus où tu passes juste dans la rue et t'es hop.
Je plains tes voisins quoi. Ouais. Il a mis le chauffage à 45 degrés, il a dû noyer les poissons connectés là.
C'est surtout la prison en fait, je vois pas d'autre issue, tu vois. C'est
génial.
Alors dans quelques jours, dans une semaine je crois, il y a un truc qui s'appelle, merde, le nom va me revenir, mais c'est des dés à jouer, à jeter, connectés et qui ont l'air hyper stylés. Et ils font vraiment le nombre de faces. C'est vraiment pour les jeux de rôle.
Ah bah je vais les hacker moi directement.
Calme-toi, Patrick. Et ils sont magnifiques, c'est vraiment fou. J'ai oublié le nom, mais voilà. Et ils lancent leur Kickstarter, donc j'imagine qu'ils vont avoir ton argent assez rapidement, Patrick. Et vraiment, c'est fou. Tu peux le connecter à ton téléphone. Et donc, du coup, quand tu lances tes dés, ils sont de la couleur, c'est un truc de fou. Et ça peut balancer des sons aussi quand tu.
Ah, c'est ça
Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on voit. Mais je vous retrouve. Le truc.
Là, c'est des dés de JDR.
Ouais, enfin, en tout cas, c'est un nombre de phases de fou, et du coup, tu peux avoir une lumière rouge quand t'as des chiffres plutôt mauvais. Tu
trop
peux avoir
bien.
Des sons, des musiques qui se lancent que tu programmes et tout, et vraiment, c'est trop beau. Plus le petit packaging pour recharger à induction ton dé, enfin. Le truc
c'est fou parce que en fait j'en avais pas besoin
maintenant. C'est toujours comme
vraiment
ça.
Je veux ça pour les sessions de JDR et tout, c'est trop bien.
Et le truc pour aller en prison là de Patrick,
je veux ça aussi. Mais comme ça je fais les deux, tu vois, je hack et hop.
Mais t'as déjà kickstarté toi?
Jamais, mais en fait je sais qu'il faut pas que j'aille dessus.
Ouais.
Parce que bah, je serais pareil. Moi, tous les trucs et tout.
Se rendre sur Kickstarter.com ou je sais pas quoi, là, c'est des pièges à sous. Parce
Oui.
C'est ouais, il faut pas faire ça. Mais par contre, parfois, t'as un beau projet. Et voilà, c'est
oui, mais tu vas sur le beau projet et ensuite tu regardes le reste. Ouais. Moi, je me connais. Je sais que je vais avoir envie de mettre de l'argent dans plein de trucs. Donc non.
J'ai acheté un clavier, tu sais, et qui crône les tout où il y a vraiment minimaliste et tout. Où tu achètes vraiment la petite touche qui fait bien, le petit switch et tout. Donc, c'est le dernier truc que j'ai acheté.
J'avais fait deux trucs et c'est vachement plaisant d'avoir un objet où tu dis oh, tout le monde ne l'a pas. J'avais fait les fidget cubes là, avant que tout le monde fasse. Enfin, c'était à l'époque des spinners ou quoi que ce soit, t'avais le truc
c'est
en
une sorte
petit
de
dé.
Un gros dé, ouais.
C'est ça, et t'as plein
d'un côté, il y a un clic, il y a un joystick d'un côté.
Ça avait mis un an et demi et j'avais fait un autre truc aussi, c'était un tout petit boîtier en mode pins avec une caméra. Et en fait, ça prenait une image toutes les 10 secondes. Et à la suite
de ça... Un timelapse de ta vie, quoi.
C'est ça. Et après, sur ton application, l'application arrive à te dire « Ah, ça, c'est un highlight de ta journée.
Bah, » comment il sait? Ah, parce que...
T'avais un algorithme, je sais pas quoi, tu vois, selon l'exposition, et si je suis resté là...
Là, c'est toi aux toilettes.
Là, exactement, je le gardais. Et après, t'avais tes photos, tu pouvais retrouver tes highlights de la journée.
Ah, c'est
rigolo. Et c'était trop drôle. Et du coup, j'avais fait un espèce de Tumblr où je montrais mes beaux accidents, tu vois. C'était une sorte de... photographie urbaine et trucs comme ça, et c'était trop bien. Et l'application, ils ont supprimé tout et je pouvais plus utiliser. Mais c'était trop bien, ils comptaient faire ça en vidéo et c'est trop bien, une espèce de CCTV de ta vie, quoi. Et c'était trop trop cool.
Il y a un truc que j'ai failli backer, mais je l'ai pas fait parce que c'était trop cher.
Ah.
C'était un cadre.
Vous entendez là les gens qui vont mettre des sous dans ces projets là vendredi.
Alors, mettez des sous.
C'était un cadre dans lequel tu pouvais placer des objets, n'importe quoi, une plume, une feuille, et il y avait un jeu de lumière qui faisait que l'objet bougeait au ralenti. Et donc dans les vidéos de ce truc, c'était incroyable, vraiment une espèce de vision onirique où tu voyais cette plume comme ça ondulée au ralenti.
C'est les lumières qui reflètent dessus qui font
exactement.
Que ça change.
T'as une espèce de stroboscope ça vibre à la même fréquence que l'objet et t'as l'impression qu'il bouge au ralenti. Et le truc c'est que le cadre coûtait genre 300€. Je dis non, c'est trop.
C'est haut quand même,
mais vraiment, la vidéo. Et puis en plus, il n'y avait pas le son, tu vois, sur la vidéo. Mais je me dis que potentiellement, il y a peut-être un moteur qui fait tout ce truc-là et qui gâche tout le spectacle. Donc voilà, j'étais pas allé, je m'étais pas mouillé.
C'est bien de garder ses sous.
C'est vrai que j'ai backé d'autres trucs, mais non, moi je suis pas trop. Dès qu'on me dit oui, ça sera livré en printemps 2022, je suis en mode. Bon,
Moi j'aime bien parce que en fait, tu dis je fais un cadeau à mon futur moi.
Wish.
Je pourrais, tiens.
Je fais un mauvais cadeau à mon futur moi.
Tu sais que moi, je me laisse des lettres pour mon futur. Je m'écris, je suis c'est
alors ma
radio. Ouais, je fais des capsules et des fois, je les cache dans la maison et je les retrouve genre un mois après et je le lis et je suis, c'est rigolo.
Ah, c'est trop bien.
Ouais, je me fais des surprises, écoute. Je me fais des cartes au trésor. Ouais. Bon, c'est marrant.
Tu vois, ça ramène à des frustrations. Parce que à chaque fois que je voyais dans des films ou quoi que ce soit, les time capsules, ça m'énervait. Non, c'est un truc que tu peux pas ouvrir.
Ouais.
Je sais plus, quelqu'un avait fait une time capsule, je sais plus quel artiste, où il y avait une chanson, où il n'y avait pas quelqu'un qui a fait son film. Vous n'allez pas le voir, et que dans 100 ans, vous allez pouvoir le voir.
Exactement. Et je crois qu'il y a John Malkovich qui joue dans le film en question.
C'est ça.
C'est
pour, qui 72 heures le film où il dure trop longtemps.
Il me semble que c'était pour faire la promo d'une bière ou d'un alcool très cher, de luxe. Et ils ont fait un film avec John Malkovich qui ne pourra pas être vu avant un siècle.
Ouais, ça m'énerve.
C'est frustrant. En fait.
Oui, c'est genre. C'est... Allez. Je serais mort.
Ah bah attends, je suis obligé de vous parler de ça, mais en parlant de Time Capsule. En ce moment, bref, je fais du tri, etc. Et j'ai une propension à jeter les trucs. J'ai très peu d'affect avec les objets. Et, je bazarde plein de trucs, etc. Et là, il y a ma meuf qui fait « Attends, tu es sûr de jeter ce truc-là ?» Je vois, je m'en bats les couilles, je sais pas ce que c'est. Là, c'est des papiers, des trucs et tout. Et elle me ressort, vraiment littéralement, elle sort de... C'était une pochette, tu vois. Elle sort de la pochette, la bande dessinée que j'avais dessinée quand j'avais 12 ans.
Oh. Ah ouais.
Mais genre, je vais pas dire qu'il y a un tome, mais il y a vraiment des dizaines et des dizaines de pages, tu vois, avec toute une aventure en plusieurs chapitres et tout, que moi, quand j'avais 12 ans, j'imprimais à l'imprimerie de la poste, enfin, à l'imprimante, je mettais 2 francs et je sais pas quoi, ils m'imprimaient ça, et j'allais le revendre aux gens de mon village. Ouais. Et je me suis dit, je suis passé à ça de jeter ma petite time capsule, pardon.
Ah ouais, faut garder ça, c'est super cool.
Et c'est vrai que je jette beaucoup de trucs. Mais c'est bon, ça a été réceptionné et c'est bon, c'est gardé. Voilà.
Il y a un mois sur Twitter, j'ai fait une annonce. Excusez-moi de rebondir sur les
trucs.
J'ai une histoire qui me revient en tête. Donc voilà, j'avais une planche de BD en tête depuis des années, depuis mes 6 ans, je pense, de Félix le Chat. Donc voilà, une petite BD de Félix le Chat. Et je me rappelais d'une case en particulier sur cette planche. On voyait Félix, il était sur un radeau, et puis en descendant dans la cale, il y avait une trappe au milieu du radeau. En descendant dans cette trappe, il s'apercevait qu'en fait, sous le radeau, il y avait une espèce de sous-marin hyper bien aménagé, avec un salon, un frigo, etc. Marrant. Et ce truc, cette image, me faisait rêver quand j'étais gosse, et m'a toujours marqué. Et a pas mal compté dans le choix de mon premier appartement, puisqu'il y avait une espèce de salon en semi-sous-sol.
Et là, sous-marin, ce qui était assez rare. Ouais.
Avec un escalier qui conduisait, et ça m'avait rappelé cette case quand j'avais visité l'appart, et c'est pour ça que je l'avais pris. Bref, donc, je dis ça sur Twitter, je dis, voilà, depuis des années et des années, j'ai cette case en tête. Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait chez lui le Félix le Chat avec cette case? Évidemment, magie de Twitter opérant en un quart d'heure. Je pense que quelqu'un m'a scanné la page et quelqu'un m'a envoyé un lien vers donc un site, genre Rakuten, un truc d'occasion, où je pouvais acheter la petite BD que j'ai achetée et que j'ai reçue. Et donc, je vais faire encadrer maintenant la petite case qui m'a tant fait rêver.
Trop bien.
Voilà. C'est trop bien de garder... Mais les souvenirs comme ça, c'est super important. Je trouve garder des objets de l'enfance, etc. Enfin, c'est des bonnes Madeleine de Proust.
Carrément.
Ouais, j'ai tout jeté à part ces BD. Moi. même, ouais, bref. Ouais, c'est vrai que je... Mais oui, après, je reconnais, tu vois, quand t'as le petit truc à l'ancienne, ça fait plaisir, mais...
Yes.
Et puis surtout de se faire enlever le nœud de cerveau avec Twitter. Enfin, je sais pas, moi, des fois, j'avais des images de films ou de dessins animés, je pouvais
pas mettre des mots dessus,
trouver. Et grâce à Twitter, plein de fois, je suis genre, parce que ça t'empêche de dormir.
C'est
mais est-ce que vous avez des trucs?
Le nombre de stories que je vois de mes potes qui
mais
me disent,
c'est, ça,
fait,
c'est quoi ça?
C'est quoi le. Non, c'est quoi cette musique, tu sais? Et en fait, c'est ce que t'appelles le cerveau de
l'esprit de ruche, hive mind, forcément.
C'est
le fait que tout le monde, la collectivité, serve à débloquer un truc, c'est génial.
Mais ouais, non, mais il y a un truc que je sais que j'arriverai pas à trouver. Et j'en viens à me dire, je l'ai inventé, quoi. Enfin, une scène d'un film qui m'a traumatisé à vie.
Et tu l'as inventé?
Et cette scène?
Non, mais tu vois, j'ai
c'est dans quel film?
Tu peux nous le dire?
Je sais pas. C'est compliqué. Non, mais c'est vraiment des souvenirs un peu. Bah, il y a deux trucs. Un dessin animé un peu style manga d'une petite fille qui est dans un placard, qui se transforme en sorcière, il fait nuit, c'est horrible. Ça m'a traumatisé. Okay. Et comme on en a parlé la dernière fois, j'ai envie de le revoir pour me dire.
Passer ça.
Ouais. Ah ouais, passer ça, quoi. Okay. Et des fois, je me dis, mais attends, est-ce que je l'ai fantasmé? J'ai rêvé. Et il y a un autre film aussi qui m'a marqué. En plus, je pensais que c'était l'époque un peu Canal+, où t'avais pas trop le droit de regarder quoi que ce soit, et clairement un film qui était pas adressé à mon âge ou ma tranche d'âge, quoi. Et ça m'a construit dans ma vie, tu vois. Ça m'a créé des névroses.
Tu veux pas te décrire la scène, parce que j'ai vraiment envie de jouer.
Ouais,
là.
Pareil, et même le chat,
21h30, en fait, c'est un film...
Ouais, foutu pour foutu, là, on va pas parler de la
gueule. Non, mais j'ai l'image d'une personne dans une espèce de sanatorium.
Ouais.
Un mec barbu, il fait froid... Il y a une scène en amont où vous voyez un peu les anciennes, pas trucs officines, mais les docteurs un peu dans The Knick ou je sais pas quoi,
oui,
les trucs de médecins, je sais pas, t'auras le mot. Enfin,
les médecins, les apothicaires.
Les apothicaires, ou je sais pas. Enfin, t'as vraiment une espèce de salle comme ça, et là, tu faisais des dissections ou je sais pas quoi, et autour de ça, ben, y a des gens qui tripotent le monsieur qui était à poil, tu vois. Et je me demande s'il faisait pas un petit peu sur son.
Ouais,
de quoi sur son prépuce ou quoi que ce soit. Mais je sais pas s'il y avait une espèce de truc de non-dit ou quoi que ce soit. S'il y avait un enjeu, le fait que c'est un film d'époque. Et est-ce que tu vois, il était circoncis ou pas? Je me suis fait toute une montagne là-dessus. Ouais. Et il y avait une autre scène où il était un peu sur un balcon, sur du sanatorium.
Ouais.
Et ils avaient une espèce de lit à l'extérieur. Et ils avaient une espèce d'arceau pour pouvoir mettre les couvertures sur eux. Et il rencontre une jeune femme à côté de lui. Et ils commencent à coucher ensemble sous l'arceau, tu vois. Et il y avait un truc très malsain autour de ça.
Oh, je l'ai pas du tout.
Ça a l'air trop bizarre.
Et ça m'a marqué, mais à vie, tu vois. Et même, je me suis construit un truc genre, oh, peut-être il n'y a pas un truc normal avec ce que j'ai dans l'arceau. Je me suis fait des montagnes, tu vois. Et ça m'a poursuivi.
Quand t'es jeune, tu vois,
jusqu'à, je pense, 12 ans ou quoi que ce soit, il y a une construction.
Quand t'as dit ce truc de médecin, je me suis dit, il y a peut-être un truc avec la cité des enfants perdus.
Ah, ils le disent dans le chat aussi.
Ce film, c'est juste du traumatisme pour les gens.
Il y avait un truc un peu un ton bleuté, un truc comme ça, dans les tons froids, un truc comme ça, il y a des trucs un peu glauques comme ça, et j'ai dit ça à des amis cinéphiles de ouf ou quoi que ce soit, et je ne trouve pas ce film. Et tu vois, vraiment, je sais que ça me ferait du bien de me réconcilier avec ça. Si ça se trouve, c'est les bronzés font du ski, je ne sais pas si je me suis fait un truc, tu vois, mais ça m'a vraiment, mais perturbé, et je n'arrive pas à pointer du doigt ça, et c'est trop marrant d'avoir cette petite quête secondaire dans ma vie.
Ah oui,
sûr, et si un jour quelqu'un peut me libérer de ça, après j'ai un peu mal expliqué, mais vraiment une espèce de sanatorium un peu Alpes suisses. Et vraiment,
c'est
scène...
comme une espèce d'amphithéâtre de dissection en fait.
Mais ça, c'était une scène avant, et après il y a une autre scène où ils sont en espèce sur les balcons du sanatorium, bizarre, et ils couchent avec cette femme sous les arceaux, un peu, il faut pas se faire cramer,
je
tu vois.
Pas du tout là, vraiment.
Et ça m'a traumatisé, horrible.
Okay.
Et quelqu'un peut me libérer de ça, ce serait génial.
Écoute,
quoi.
Il y a deux noms qui sont partis, je les note, ça on regarde.
Non, mais je sais pas si vous avez des quêtes secondaires comme ça dans votre vie.
Il y a combien de personnes là dans le chat?
Je sais pas du tout.
Je sais pas.
Ah, j'avais eu ça avec un film qui m'avait traumatisé quand j'étais jeune ado, et je savais pas du tout ce que c'était, et j'avais des images qui restaient dans ma tête.
Ouais.
Et en fait, je l'ai retrouvé plus tard, et c'est devenu mon film préféré.
Ah, oh, trop bien.
C'est très
pas
bizarre.
Ça la même pour
non, moi. C'est trop bizarre.
Quel est le film
Metal Hurlant, je sais pas si tu connais.
Ouais, bien sûr.
C'est
ouais.
Génial. Bah, du coup, j'adore parce qu'en plus, c'est tiré du travail de Moebius, etc. Donc, c'est. J'adore Moebius. Et je suis retombée dessus plus tard, et je l'ai re-regardé pour un peu exorciser ça. Et j'ai fait, mais c'est incroyable.
Non, c'est fou.
C'est trop bien.
Attends, Metal Hurlant, c'est avec le nounours. Ah non, c'est Planète Hurlante.
Ouais, c'est ça, Metal Hurlant, ça va être. C'est du dessin, etc. Inspiré du magazine.
Ah oui, non, oui, bien sûr, oui. Okay, non.
Et c'est que du métal et tout, c'est trop bien.
Ouais. Qui hurle, du coup.
Ouais, ça hurle beaucoup.
Akira, que j'avais vu beaucoup trop jeune, j'avais essayé.
Ah oui,
ça,
Akira.
Du coup, surtout la scène des boyaux qui sortent, là, tu vois, sur le sol, là. Où vraiment, j'étais gamin, j'ai fait. Il y a du détail que je connaissais pas là-dedans. c'est très nouveau pour moi.
Yes.
Toi, t'as eu des petits traumas. Mais donc, finalement, on va parler de ça, des œuvres qui traumatisent.
Donc, trauma de films ou de dessins animés qu'on a vu enfant. Oui, ouais. Bah oui, j'en ai un paquet. Je me rappelle d'une scène.
Ça peut se ressentir un peu sur ton œuvre, finalement, Patrick, j'ai l'impression.
Sans doute. Donc, j'ai vraiment deux traumas d'enfance. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Le sens de la vie des Monty Python. Donc, il y a une scène dans ce film où on voit donc, un mec énorme au restaurant
qui se gave et qui explose.
Et donc, il y a des tripes de partout, c'est ignoble.
Alors, je suis très content d'avoir vu ça quand j'étais ado-adulte. Bah ça voilà, m'a beaucoup aidé dans la vie. Là, je peux avoir un petit rictus de sourire, mais vraiment, 6 mois avant, j'aurais été terrorisé.
Bah, moi, j'étais gosse, moi. Je devais avoir 6-7 ans. Et je me rappelle, ça passait sur Canal+, et je regardais
ça. C'était tellement détaillé. Il y avait vraiment il est éventré à la fin. On dirait une coquille vide, en fait.
C'est vraiment gore. Et donc, je regardais ça avec mon père. Et à la base, tu vois, tu te dis, OK, c'est un film comique, il n'y a pas de raison que ce soit un traumatisme d'enfance. Et puis il y a cette scène qui arrive.
Oh là là.
Et donc quand le mec explose, mon père a la bonne idée de me dire attention, tu vas en prendre un morceau.
et
j'ai instantanément gerbé.
Non,
vraiment. Par terre, ça a été un choc terrible.
Ton daron qui était lui dans un kiff total, j'imagine qu'il était mort de rire. Il te lance une punchline.
J'ai vraiment gerbé et ça me l'a refait une autre fois avec la bande-annonce du film Street Trash qui passait pareil sur Canal. Donc il y avait une émission de cinéma. Pareil, j'étais pas très.
Canal nous a traumatisés.
Qu'on embrasse.
Donc Street Trash, c'est un film gore particulièrement coloré et visuel où en fait il y a une espèce de fiole qui est retrouvée chez un antiquaire et les gens qui boivent cette fiole se mettent à fondre et deviennent des blobs multicolores ignobles. Yes. Et donc il y avait juste la bande-annonce de ce film gore. Et j'avais là aussi gerbé devant mon écran.
Énorme
et du coup, j'avais vraiment...
Dominique Farrugia dans la Cité de la Peur.
Non, vraiment. Et j'avais un trauma avec les films gore comme ça pendant des années et des années, jusqu'à l'adolescence, où j'ai décidé de me confronter à ça. Et là, j'ai regardé tous les Peter Jackson.
Tu les as affrontés. Voilà. Il y a un côté de j'affronte ma peur.
Exactement, parce que j'avais vraiment ce trauma d'enfance et ça m'a guéri. Après, j'étais totalement insensible à tout ça.
Ouais, il faut exorciser le truc. Hein.
Ouais.
Il y a des gens dans le chat qui parlent de Jodorowsky. On est déjà à quel âge tu regardes La Montagne Sacrée? Enfin, vraiment, vous cherchez des films. Ouais. Quoi.
Ouais. Non, faut pas regarder ça, les potes. Hein.
Non.
Là, je vois dans le chat des trucs, je dis waouh.
Ah ouais.
Si, un truc que j'ai vu dans le chat, et je suis d'accord, c'est je sais pas si vous voyez Pingu. Enfin, oui. Pingu, j'aime bien dire Pingu.
Nick.
Et bah, le phoque là.
Ah oui, bah.
Le fameux passage du phoque et du lit qui se lève et qui fait des trucs comme. Oh là 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 là, ça m'a traumatisé. J'étais toute petite et tout. Rien. Ah, c'est horrible. Ouais. Ne regarde jamais ça.
Okay. Et souvent, les gros traumatismes naissent du fait que tu dois pas ressentir ça. Tu sais, cette espèce de honte où tu dis, mais non,
ouais,
tu te sens bête.
C'était pas bien.
Alors que t'es juste traumatisé. Enfin, comme j'avais évoqué sur le pacte des loups, tu vois, c'est le pacte des loups. C'est Samuel Le Bihan qui fait du kung fu, tu vois. C'est nul à chier, tu vois. Et j'étais genre, oh non, je suis contrarié. J'ai pas dormi pendant 6 mois, tu vois.
Là, je fais beaucoup aussi, tu vois. Moi, quand j'ai vu les boyaux là, dans Akira, à 6 ans, j'étais en mode, yes, tu vois.
C'est jeune, 6 ans quand même.
C'était rude, quoi. Je devais pas. En plus, mon frère m'avait dit, ne regarde pas, c'est pas pour toi. Alors, du coup, j'avais deux fois plus envie de regarder, tu vois. Et vraiment, le regret aussitôt, j'ai fait non, je savais pas que c'était comme ça.
Si, j'en ai un qui vient. C'est les sortes de marionnettes Dark Crystal.
Comment t'as su?
Parce que c'est le trauma d'une personne sur deux.
Et en plus, je l'ai vu 3 fois. Quoi.
Ah ouais,
à l'école forcée, mes parents et chez un copain, ils nous ont mis dedans. Et moi, à chaque fois, j'étais.
T'as regardé la série?
Non, j'ai pas pu. J'ose pas, en fait.
Alors,
parce que ça me met vraiment mal à l'aise.
Ce qui est original dans Dark Crystal, c'est que les héros font aussi peur que les. S'ils ont ce truc un peu de je suis mort, tu sais,
mais
t'as l'impression que c'est des cadavres qui sont là. Oui, je t'aime beaucoup. Leur regard est vide et mort.
Il y a ce truc creepy des marionnettes des années 80 là, qui n'y est plus d'ailleurs dans la série, puisque je crois pas que ce soit des marionnettes, il me semble que c'est du CGI.
Encore
un peu, il manque de la vie dans les yeux.
Par contre, les monstres sont toujours aussi flippants là, pour le coup.
Ah oui.
Et par rapport à ça, par rapport aux marionnettes et à Jim Henson, parce que c'était Jim Henson, il me semble, qui avait fait les marionnettes du premier Dark Crystal, donc qui est un peu le pape évidemment de l'animation de marionnettes. Il y a quelques semaines de
ça. On va pas vérifier parce que même si c'est faux, on s'en fout.
Mais c'est vraiment
une vue.
C'est vraiment
Jim Henson, c'est le créateur du Muppet Show, etc. Enfin voilà, c'est Monsieur Marionnette. Et donc il y a quelques semaines, j'avais partagé sur Twitter une vidéo qui est une des vidéos les plus étranges et tristes à la fois qui existe sur YouTube, je pense. Et d'ailleurs, Pierre, quand on avait fait l'émission
YouTube,
j'avais oublié cette séquence.
Merde.
Et franchement, avec le recul, j'aurais pu la proposer.
Quelle est cette
vidéo? Alors, pour les funérailles de Jim Henson, il y a un des personnages de Sesame Street, parce que Sesame Street aussi, c'est le même studio que le Muppet Show. Donc, il y a un des personnages de Sesame Street qui s'appelle Big Bird.
Ah,
donc, c'est un oiseau géant qui doit bien faire ses 2 mètres de haut.
Sur roller, je crois. Il fait du roller sans autre. Donc, c'est vraiment une créature énorme, jaune. Qui...
Bah, en tout cas, là, dans la vidéo, il marche. Et donc, il se rend au milieu de l'église dans laquelle se déroulent les funérailles. Ah. Et donc, il y a déjà ce truc à la fois surréaliste et dérangeant de voir un oiseau jaune géant avancer au milieu d'une église pendant des funérailles. Et là, il se met à chanter la chanson phare de Kermit la Grenouille. Le moment est vraiment déchirant. Extrêmement triste. Et à la fin de la chanson, évidemment, il n'y a pas un rire, il n'y a pas un sourire dans l'assemblée. Et à la fin de la chanson, il n'y a pas un applaudissement. Et tu vois l'oiseau, donc en plan un peu éloigné, l'oiseau qui redescend de l'estrade. Et voilà. Et tu dis, OK, quand à ton enterrement, il y a une personne déguisée en oiseau géant qui chante et que personne ne sourit, c'est que t'as vraiment réussi ta carrière de marionnettiste.
Ouais, j'avoue, ouais.
Vraiment.
Putain,
le truc un peu pathétique qui te met mal à l'aise, quoi.
Mais moi, je veux ça aussi.
Big Bird à ton enterrement.
Non, je veux le Quickie Monster, mais.
Ah, le Quickie.
Attends, Quickie Monster.
Ah, Quickie, oui.
Ah ouais, j'adore le Quickie Monster. Aussi,
Des d'autres petits traumas, peut-être, dans le chat, tiens.
Attends, on a abandonné notre thématique, c'est terrible.
J'ai vu Le Silence des Agneaux à 10 ans, nous dit.
Non, mais aussi, vous cherchez aussi.
C'est lequel où il mange le cerveau? C'est Le Silence des Agneaux?
Non, c'est après.
C'est Animal Lecteur.
Enfin, c'est
Hannibal. Terrible, terrible.
Oui, mais c'est Hannibal tout court.
Ah, Hannibal tout
Hannibal,
court. Pardon.
Le film, c'est Hannibal.
Après, il faut pas voir ça avant c'est 16 ans, je dirais.
Bah, même au-delà du cerveau, enfin, le personnage de Gary Oldman.
Horrible. Un cauchemar total.
Il se fait manger. Enfin,
L'armée des 12 singes à 10 ans.
Il se fait manger par des cochons ou...
C'est ça.
C'était son lore.
Qu'est-ce qui est creepy dans L'armée des 12 singes?
Bah, l'univers Terry Gilliam, c'est vrai que c'est toujours un petit traumatisant quand même.
Peut-être le truc un peu qui te...
Bah visuellement, tu vois, c'est un peu du Jeunet-like. Même visuellement, je trouve que Terry Gilliam, il y a un côté très creepy, quoi. Oui.
Il me semble que le personnage principal entend des voix aussi. Il y a une séquence où il est dans un asile, et il y a des voix un peu creepy autour de lui.
Ouais, c'est vrai que c'est tourné. Ouais. Mais je pense que les séquences dans le futur sont peut-être un peu creepy. C'est vrai que j'imagine bien Bruce Willis. Je me rappelle un peu de ces scènes où il est un peu, on ne sait pas, emprisonné, je ne sais pas quoi, checké, vérifié. Mm. Et il y a une sorte de. Ouais, oui. Il y a plein de trucs un peu chelous. J'adore ce film, mais je pense que...
C'est quoi votre enfance?
La mort du méchant à la fin de Roger Rabbit, bien évidemment.
Quelqu'un dit l'exorciste a marqué moi, ma famille et mes potes. Et personnellement, j'ai un truc avec l'exorciste. Donc, je l'ai vu quand j'avais 18 ans. Et justement, à cette époque-là, j'étais vraiment...
C'est grand, ça, Patrick. Hein. T'es un grand garçon, là.
Mais alors, justement, c'est parce qu'à l'époque, j'étais en plein dans ma période, justement, film d'horreur, film gore, où j'étais dans une phase de désensibilisation totale. Donc, en fait, j'essayais justement de me faire peur. Quoi.
Tu vomissais plus.
Non, c'était terminé, tout ça. Et puis, un soir, je me souviens que l'exorciste passe sur M6. Et donc, je ne l'avais jamais vu. Et je me dis... Bon, puisqu'il passe, autant le regarder, c'est un classique. Et honnêtement, un film des années 70, je peux comprendre qu'il est choqué à l'époque, mais aujourd'hui, avec tout ce que je me tape, il n'y a aucune chance que je sois secoué par ce film. Mmh. Donc, regardons-le par curiosité, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir peur. Et ça a été un traumatisme comme j'en avais jamais eu devant un film d'horreur, parce que ce film, il est profondément malsain, et il est traversé de séquences subliminales, en fait, avec des sons, avec des images qui popent comme ça, et qui installent une atmosphère terrible. Donc, même indépendamment de l'histoire, c'est ce qui se dégage de ce film, c'est la pellicule elle-même qui a l'air possédée, quoi. Et il y a un truc...
Alors, ça vomit là, à ce moment-là, Patrick ou...
Non, c'est le personnage principal qui vomit beaucoup dans ce film, par contre, mais moi, non. Et j'ai une petite théorie sur la manière dont ce film fonctionne, et je pense que ça a inspiré pas mal de films derrière, c'est que dès le début, le film t'affaiblit psychologiquement et te met mal à l'aise parce que le personnage de Regan, qui joue la petite fille possédée, au début, elle est à l'hôpital, elle passe des examens, donc on a une enfant malade, tu vois, c'est triste, c'est un peu glauque et ça te met mal. Et
puis l'hôpital en soi, enfin même la figure de l'hôpital.
Et puis même, tu vois, des souvenirs de maladie d'enfance, enfin, c'est quelque chose qui te met dans un mood bien, bien dark, et une fois que t'es affaibli, là, le réalisateur n'a plus qu'à te cueillir, quoi. Et tout ce qui t'inflige, c'est autant du percute dans la gueule. Et j'ai remarqué que c'était un truc qui était repris, notamment dans The Descent, par exemple, qui est un film terrible et qui commence génial, de la même manière. Accident de voiture, un truc très réaliste dans lequel tu peux te projeter. Mmh. Et
après, si, bien affaibli, si je peux me permettre, Patrick, c'est aussi un petit peu logique. Tu commences pas ton film d'horreur avec ta gamine qui a un 20 sur 20, tu vois, en maths, elle est refaite et tout. C'est plus dur de t'emmener vers l'horreur derrière. Tu vois.
Je suis d'accord.
Ouais, mais là, t'as des films qui sont plus doux et qui t'amènent pas forcément dans l'affect directement.
Ah putain, moi j'adore le film Esther. J'ai pas revu depuis longtemps, mais je sais que quand je l'avais vu, je l'ai trouvé vraiment formidable. Et ça commence par eux qui adoptent la fille et tout, donc je crois qu'il y a un côté un peu cool, tu vois.
Ouais, t'as des côtés mignons des fois, et après la descente, en fait, c'est pour te faire vraiment un choc en te disant regarde, c'était mignon, et là on est dans la merde.
Vous vous rappelez qu'il y a un fait divers il y a quelques années de ça, là, qui ressemblait vachement au scénario d'Esther, avec une personne de petite taille en réalité.
Alors oui, mais non, et en fait c'est une fille, en fait il y a eu beaucoup de...
Ouais.
Beaucoup de titres, des articles. Ouais, et donc, du coup, cette affaire m'a un peu énervé, moi, parce qu'il y a eu tout et n'importe quoi qui a été dit. Et pourtant, Dieu sait qu'on aime dire de la merde dans cette décision.
Peut-être pour resituer Esther, peut-être les gens n'ont pas. C'est
Esther, c'est en fait, oui, c'est fille. Ça. Le scénario, c'est une petite fille qui est adoptée. Et en fait, c'est juste une adulte.
Elle a 36 ans.
Exactement. C'est une adulte qui se fait passer pour une petite fille. Et elle mène, bien évidemment, la vie dure auprès des parents. Et comme chacun le sait, on rend pas les enfants, donc tu te retrouves avec un monstre un peu chez toi, quelque sorte.
Sauf aux États-Unis un peu.
Enfin, j'ai 15 ans, je n'ai jamais vu de film d'horreur, nous dit.
Mais c'est bien,
c'est très bien, tu as le droit. Hein.
Bon,
mais moi, je sais que j'ai été traumatisé par Shining sans avoir vu Shining. Est-ce que vous savez pourquoi?
À cause des scènes qui passaient.
Attends, je réfléchis. Est-ce que c'est parce que t'as vu la scène de la vieille qui sort de la baignoire dans un autre film?
Alors, c'est ça qui est frustrant, tu vois. En fait, c'est tu tires Shining, mais dans un autre setup qui m'a traumatisé ou je devais pas être traumatisé. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Twister?
Ce film,
sur les tornades.
Tornades, oui, c'est ça.
Et à un moment, ils vont au drive-in, donc du cinéma en plein air où il y a les voitures. Et au drive-in, passe Shining. Et juste, trois extraits de Shining. Ça m'a séché.
Ouais. Sérieux?
Et t'as jamais essayé de le voir après, du coup pour...
Et je l'ai vu, mais très long. Je pense que je l'ai vu à 18 ans, 19 ans, tu vois. Mais ça m'a déjà traumatisé. Il y avait, je crois, que les deux petites filles.
Ah, les petites filles aussi.
Et en même temps, enfin, tu vois Shining, en même temps, t'as Philip Seymour Hoffman qui se fait à moitié trépaner par un truc. Enfin, tout le setup et
mais
tout.
Pour moi, Shining, les tableaux différents sont pas hardcore. Non. Et c'est vraiment, pour moi, la l'ambiance. Continuité, ouais, ouais, l'ambiance, ouais. Et de voir... juste le reveal quand on découvre qu'il tape tout le temps les mêmes trucs. C'est ça en fait pour moi qui est plus je pense que si t'as des petits bouts c'est quand même moins vénère.
Moi, j'ai jamais été traumatisé par Shining parce que je crois que Jack Nicholson est trop cool en fait. Il est trop sympa. T'as plutôt envie d'être de son côté parce que vraiment le gars
donc, quand il défonce la porte avec une hache, Patrick il est en mode yes.
T'as envie de dire yes Jack, vraiment il était dans un truc. Donc c'est pour ça que moi j'ai jamais vraiment eu très peur de Shining parce que je trouve pas que Jack soit effrayant.
Faut remettre dans le contexte quand t'es un enfant.
Bien sûr.
Tout ce qui est suggéré, ton cerveau va faire 10 fois pire. Ouais. Moi, ça se trouve, je me suis imaginé Shining, ouais, genre une montagne de ouf. Après, je l'ai vu, j'étais là, oui, bon, ok, tu vois. Mais quand t'es enfant, c'est souvent ce que tu projettes, ou justement, c'est ce qui est caché. Enfin, tu vois, c'est pour ça des films, enfin, tu vois, comme Alien, c'est suggéré, tu vois pas la bête, et c'est ce que ton cerveau va imaginer. Et ça, tu fais des montagnes de ouf, quoi. Et juste ces extraits de Shining, parce qu'on m'avait dit aussi Shining, wow, monument, ça fait peur. Et j'étais genre, wow, Twister, quoi. Alors, ce film est génial.
J'ai un fun fact sur Twister.
Que le cerveau
de Ruche va pouvoir nous le dire.
Est-on prêt pour l'anecdote quand même sur.
C'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf.
Non, mais c'est moi que je suis sûr que c'est très bien.
Juste, ça me revient.
Tu as évoqué ce film. Patrick a quand même une anecdote là-dessus.
C'est fou.
C'est incroyable.
Twister.
C'est incroyable.
Alors, s'il vous plaît, cerveau de Ruche, vérifiez. Mais il me semble que c'est le premier film pressé en Blu-ray.
Ah ouais.
Alors, si quelqu'un peut chercher là sur Wikipédia, Twister, c'est soit le premier film fait en Blu-ray ou en DVD, c'est un des deux.
Je pense DVD.
DVD, voilà. Je pense. Hein,
parce que Blu-ray, c'est bien après. Ouais.
Attendons que les gens vérifient.
Okay.
On vous fait confiance.
Mais voilà.
Les anecdotes.
On peut continuer. Hein. Quelqu'un nous confirmera.
Non, mais je sais pas, les amis, parce que...
Alors, juste comme ça, on parle de traumatisme, mais... enfin, de films qui, pour moi...
La séance de psy.
Oui, j'allais dire, on est en séance de psy, c'est très bien, c'est, j'aime trop.
L'émotion la plus forte que j'ai vécue au cinéma, moi, c'était le film, et c'est la promesse, hein, c'est le film 127 heures, avec un mec, donc l'histoire vraie d'un mec qui se retrouve pendant une sorte de petite...
C'est bon. Ça,
Twister,
DVD.
Premier DVD.
Twister est le premier film hollywoodien à sortir en DVD. Merci pour
GG,
cette anecdote.
Bravo.
C'est tout ce que t'as comme anecdote sur Twister?
C'est tout ce que j'ai là.
Mais bah,
attends pour 127 heures.
Non, mais du coup, la promesse c'était quand même ce film-là d'une histoire vraie d'un mec où son bras se retrouve coincé sous des débris, sous des roches, dans un canyon américain. Et du coup, il est coincé. Et puis au bout d'un moment, bah, finalement, au fur et à mesure qu'il boit sa pisse et tout ça, il se dit bah, il faut que je parte quand même.
Ouais.
127 heures, c'est le titre du film, et il se découpe le bras lui-même avec ses ongles et des bouts de cailloux, quoi. Et cette séquence-là est quand même, c'était la promesse, c'était genre on va vous montrer, et ça joue vraiment, et t'as vraiment l'impression, enfin moi, en plus c'était dans un petit cinéma et j'étais proche, donc j'avais vraiment l'écran en énorme devant mes yeux.
Ça joue.
Et je croyais qu'on ressentait bien ce truc de putain, les nerfs, c'est quand même là où passe toute la douleur, sa force. Donc dès qu'il découpe les nerfs et t'avais les flashs au blanc, la musique et tout, c'était la première fois que j'étais au cinéma, j'ai fait. C'est beaucoup là quand même. Je suis plutôt un bonhomme, ok, n'est-ce pas? Je pleure pas pendant les films, mais 127 heures, vous m'avez fait mal digérer le McDo, quoi. Voilà.
Je sais pas si j'ai mal.
Vous l'avez pas vu avec
James
Franco?
J'ai pas vu,
Franco,
Non, moi, ça je veux plus voir.
Mais après, ça dépend de la.
Toi, t'as aimé ce passage, par exemple. C'était un moment
que t'aimais. C'est son moment préféré.
Vraiment, je le mate en boucle sur TikTok. Voilà. Non, mais c'est des expériences de ciné. Moi, je me rappelle un des derniers films de Ron Howard sur Moby Dick. Et je pense que j'ai juste été en méga gueule de bois. Et bon, pour ceux qui sachent, dans Moby Dick, à un moment, il va falloir survivre et bouffer d'autres gens. Et juste ce moment-là où, en plus, la pellicule devient bien cramée, j'ai cru que j'allais faire un malaise, quoi. Ouais. Et c'est vraiment des trucs comme ça où. Alors, le pire que j'ai eu, bon, après je l'ai cherché, c'est donc tous les ans, j'allais à Cannes pour faire des reports du Festival de Cannes. Et un soir, bah, comme tous les soirs, c'est la fête, les soirées, trucs comme ça, tu fais des rencontres, nanana, tu picoles et tout ça. Et je finis, je pense, vers 4h30 du matin, une soirée, je rentre chez moi. Et à 7h du matin, je reçois un texto. Pierre, on t'a trouvé une place pour aller voir un film en section officielle, tu vois.
Ça, c'est un classico du Festival de Cannes, parce que moi, le nombre de films que j'avais vus tôt le matin, et que la veille, t'avais pas prévu du tout de te lever tôt le matin. Et du coup, il y a des films français, tu sais, très premier degré et tout, et là,
donc je dis, bah ok, j'y vais, je vais pas manger, je suis encore à 2 grammes, je pense, tu vois, je suis pas bien. Je cours, il fait une chaleur, mais monumentale, quoi. vraiment le malaise végal arrive, tu vois. Déjà, je me sens pas bien,
oh,
tu vois.
Pauvre,
là, j'arrive vraiment à la salle, et il faut savoir que bah, la salle où sont projetés les films, du Palais des Festivals, la salle est vraiment immense.
Ouais, c'est énorme. Ouais.
Mais ça doit être une des plus grandes d'Europe, ouais. Ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment immense. Et puis, il y a un balcon, et le balcon, il est méga haut, tu vois. Et j'ai le vertige. Très, ouais. Et moi, la place que
ça
j'ai,
mal,
c'est
déjà.
Milieu du balcon, devant.
Ce qui est une très bonne place.
Ce qui est une très bonne place.
Mais
toi,
t'as le vertige.
Incroyable. J'ai
le
vertige, j'étais pas bien, j'étais déjà en malaise vagal et tout ça. J'étais au milieu, autour de moi, des gens. Et donc là, j'étais genre en train de me projeter. Ouh là là, comment je, si je fais un malaise, soit je tombe, soit je vomis sur des gens. Peut-être
haut
placé, je ne sais pas. Je suis à Cannes, tu vois. Je me dis, ouais, il faut que je sois bien, tu vois, c'est Cannes. Ouais. Et en fait, je suis allé voir un film de Cronenberg.
Oh, merde.
Donc, c'est Metropolis, c'est ça ? Avec Radcliffe. Bradley, pas du tout.
Non.
Robert Pattinson.
Robert Pattinson.
C'est Metropolis ou Cosmopolis ? Cosmopolis.
Il y a un truc dans ce goût-là, ouais.
Et Cronenberg, il faut savoir que vraiment, c'est un univers.
Le fils. Enfin, non, c'est pas David Cronenberg. Hein.
Mais c'est un peu dans un univers de merde comme ça,
ouais,
quoi.
Ouais.
Enfin, c'est toujours l'angoisse totale. On fait des allégories sur le capitalisme. Limite, des gens vont se bouffer. Et vraiment, j'ai tenu genre 20 minutes et je commence vraiment à avoir des papillons dans les yeux, tu sais, le voile, quoi.
Oh,
et je fais un blackout.
Oh non. Mais tu t'es pas blessé ou quoi que ce soit.
Non, j'ai fait vraiment un truc, genre un reboot, quoi. J'ai comme ça. Et après, je me suis extrait comme ça. J'étais, ouais, salut, ça va bien. Et j'ai titubé jusqu'à la sortie. Et c'était un cauchemar, quoi. Et vraiment, c'est vraiment le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment un sketch, quoi. C'était le pire film à voir en gueule de bois. Et tu vois, c'est souvent des expériences et ça m'a traumatisé encore une fois.
Oh non.
Donc, j'ai raté mon premier visionnage à Cannes.
Si t'as vu 20 minutes au moins.
J'ai vu 20 minutes, j'ai subi 20 minutes. C'est vraiment avec les tempes qui chauffent, tu sais, tu commences à avoir mal au ventre.
Tu sais que tu vas pas être bien.
Tu sais que tu y vas, quoi. Et un vrai traumatisme.
Je me demande si ce serait pas le moment de faire, même
les
si on a loupé des pas
putain,
mal de.
Putain, il est 21h50.
On a
d'ailleurs,
loupé.
On a Harvey dans le chat, très rigolo, dont on a parlé au début de l'émission.
Mais
le renard.
Ah, il y a Harvey le renard.
Mais non,
bah, salut.
Énorme.
T'es notre bilan.
Bravo à toi pour ces discounts.
Bravo, Harvey.
Prends la thune de ces discounts, il n'y a pas de souci. Un petit jeu sur la France, on a le temps ou pas ?
Bah, il y en a vraiment
là,
9 minutes, je
ne
sais pas. Ou est-ce que vous voulez faire les faits insolites de France que j'ai trouvé sur les villes ? Parce que j'ai su que tu allais faire des étranges escales en France.
Yes.
Et j'ai un peu des trucs autour
Allez.
De villes et juste savoir.
Nickel.
Avec, un peu à la manière des grosses têtes.
Parfait.
Ou du footcast, comme vous connaissez. Est-ce que vous pouvez me dire, les amis, quelle est la spécificité de la ville de Lorient ?
De Lorient ?
De Lorient ?
En France.
T'es sur leur page Wikipédia.
Ah non, pas encore. J'aimerais bien. Bientôt.
J'ai tenté.
Ouais.
C'est pas un truc avec des. Non. Avec des hôpitaux ou...
Est-ce que vous savez où est Lorient déjà ?
Non.
C'est en Bretagne.
Oui, c'est en Bretagne.
Je sais pas exactement où en Bretagne.
Voilà, Bretagne Sud. Là, il y en a une petite indication.
C'est l'endroit où il pleut le plus en France.
Ces clichés sur la Bretagne me dégoûtent, monsieur Yov.
C'est donc.
Bretagne Sud.
La vérité ?
Non.
Ok.
Il pleut plusieurs fois par jour, comme il fait beau plusieurs fois.
Mais c'est
par
trop
jour.
Bien la Bretagne.
Bref.
Un petit indice peut-être.
Bah, c'est en Bretagne. Alors la Bretagne, bon, vu qu'on est sur les clichés apparemment avec Monsieur Yov, c'est quoi les autres clichés bretons ?
Crêpes.
Ah ouais, t'es gentil.
Alcoolisme.
Vraiment, ok. Voilà.
Galette,
là, on s'approche.
Et tu me reproches de.
C'est honteux, monsieur. Cidre. C'est honteux ce que vous faites.
S'il y a un record du.
Il y a un record. Effectivement, Lorient détient un record.
Record de
l'homme
la quantité
plus...
de cidre bu par une personne.
De la meilleure galette.
Je pense qu'on peut s'approcher, mais c'est pas vraiment un fait. C'est plutôt dans la ville où on va trouver
le plus
des choses. Le plus de
bars au mètre carré.
Ah.
Non.
Effectivement. Il faut savoir que Lorient, en termes de densité par nombre d'habitants, il y en a le plus de bars en France.
Voilà. Ça explique la gueule de bois au festival de Cannes.
Je sais plus, c'est un bar pour 18 000 personnes, je sais pas quoi. Et donc, il y en a, effectivement, il y a des bars.
C'est un bar par ville. Personne, alors.
Ouais, c'est ça.
Dans le chat, voilà. Le plus gros Kouign-Amann.
Voilà, avec le festival interceltique de Lorient, bien évidemment. Non, un truc très con. Comment se nomment les habitants de Bonny-sur-Loire ?
De Bonny-sur-Loire ?
Le de la ville de Bonny-sur-Loire.
Attends. Et ça commence par.
Ça s'appelle le Gentilé.
Bonny.
Le Gentilé, c'est le nom des habitants d'une ville.
Tes yeux. Bonny.
Quel est le Gentilé de Bonny-sur-Loire ?
Joli.
Bonny
and Clyde.
Loirien ?
Non.
Des Bonniens ?
Non.
Des Bonités.
Vous avez le début.
Bonny-toi.
Ok,
Bonny. Ça commence par Bon.
Ouais.
Bonny ?
Ouais.
Les Bonimenteurs ?
Non.
Bonny-Loirien.
Là, j'avais. Quand j'ai écrit cette question, vraiment, j'avais. 8 ans d'âge mental et j'ai gloussé.
Les Bonny.
Regardez, ils sont bien.
Bonny. Les Bonariens. Les Bonariens.
Non, j'ai.
Pardon.
À 8 ans, ouais, ça Bonas, pouvait me faire rire, mais.
Bonny. Qu'est-ce
qui. Ça a un rapport avec le corps humain.
Des Bonnénés.
Tu t'approches.
Les Bonini ?
Non.
Des Bonichons.
Les Bonichons. Effectivement, les habitants de Bonichon, ce sont les Bonichons.
Super.
J'adore.
Voilà. Réaction de Magla qui vit sa meilleure vie avec ce genre d'informations.
Ouais, j'étais content de moi, allez, super.
Tu peux.
Mais je pensais que c'était une blague.
Non. Une seule de ces villes de France n'existe pas. Laquelle ? La ville de Mouais, la ville de Angoisse, la ville de Bourré ou la ville de Litière ?
Ah, je dirais Angoisse. J'ai vu Thomas Hercouet, je crois, devant la ville de Mouais.
Ouais, exactement. Ah ouais, ouais, il a fait une photo devant Mouais. Ouais. Moi, je dirais Bourré parce que c'est celui qui a l'air le plus réel, en fait. C'est peut-être un piège, à mon avis.
Ah, trop évident.
Je dirais
Angoisse quand même.
Je dirais Bourré.
Alors, Angoisse, c'est trop un mot de la vie de tous les jours. Bourré, ça pourrait, tu sais.
Angoisse, j'ai l'impression de l'avoir vu, moi.
Ah bon ?
Ouais.
Non, mais Angoisse.
J'habite à Angoisse. Non, c'est Litière.
Allez.
Effectivement, Bourré existe. Je crois que Bourré est en Dordogne. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de conneries. Litière. Mais Mouais. Donc, Mouais, littéralement Mouais. Ouais.
Peut-on Angoisse avoir le gentilé de toutes ces villes, s'il te plaît ?
Le quoi ?
Le gentilé, le nom des habitants.
Ah putain, il faut que je check le lien. On rappelle qu'on est à Webedia. On est à Webedia et Webedia, c'est compliqué Internet.
Non, mais attends, le chat va se. Magla, continue à jouer, s'il te plaît.
Sinon, j'ai un autre truc. Quel arrêté municipal insolite a été émis par la ville de Granville en 2008 ?
Est-ce que Granville, c'est une grande ville ? C'est une moyenne ville ?
Pas tellement.
Putain, Magla, à chaque fois, elle réagit.
J'ai deux hypothèses en tête.
Vas-y.
Un arrêté empêchant les extraterrestres de se poser sur le territoire de la ville ?
Ça, c'est à Châteauroux-sur-Saône, un truc comme ça. Effectivement, ça existe. Patrick a raison. Et effectivement, il y a un arrêté comme quoi il est interdit aux ovnis de traverser.
Donc, t'imagines, tu traverses l'univers. T'arrives dans la ville et là, on te sort un putain de papelard et tu fais, les gars, on va devoir se poser à côté.
Tu prends un PV, je suis vraiment tapé la galaxie. L'accueil. Pour un PV.
Moi je comprends, tu sais, les films où vraiment les États-Unis sont toujours la cible à chaque fois, tu sais, où vraiment ils arrivent aux États-Unis. Mais normal, on t'accueille. Nous en France, on sait pas s'y prendre. Wow. Granville, non. Alors.
Deuxième option pour moi, c'est un arrêté qui interdit aux gens de mourir dans la ville. C'est ça ou pas ?
Non.
Parce que ça existe aussi, ça.
Mais c'est ouais, ça. Mais non.
Ah, il reste que 3 minutes. Ah ouais, vraiment, ok. Ah ouais.
Vas-y, alors dis-nous s'il te plaît.
Bah, c'est qu'il est interdit aux éléphants d'aller sur la plage. Car effectivement, apparemment, il y a eu un cirque, enfin des gens qui habituaient et ils arrivaient marre des étrons d'éléphants sur la plage de Granville. Et donc, il est interdit d'amener un éléphant sur la plage de Granville.
C'est génial.
Voilà,
c'est
et juste pour finir, est-ce que vous savez ce qu'il était interdit pour les habitantes de Paris et alentours de faire jusqu'en 2013 ?
Les habitantes ?
Habitantes.
Les pantalons ?
Mini-jupe ?
Porter des pantalons ?
Effectivement.
Les pantalons étaient interdits par
jusqu'en 2013, il était interdit pour les parisiennes et ses alentours de mettre un pantalon. Génial.
Wow.
Voilà,
ça montre un peu la dissidence des Français quand même, parce qu'ils s'en foutaient quand même.
On le faisait quand même.
Les Françaises.
Alors qu'on le savait.
Putain, c'est passé si vite. Donc là, on n'a pas fait notre thématique sur nos voyages.
Vraiment pas. Mais c'était très marrant.
C'était très bien.
C'était trop cool.
On passe au reco, vite fait alors.
Ouais, on a peut-être des petites questions, non ?
En deux minutes, est-ce qu'on a le temps de les faire ?
Sur toutes tes étranges escales, quelle a été ton expérience la plus folle ?
Putain, ça va être short peut-être. On peut dépasser ou pas du tout ? Vraiment, c'est interdit.
On peut dépasser un petit peu.
Bon. Ok, donc c'était sur l'étrange escale à San Francisco. Je voulais aller filmer les locaux de l'Internet Archive. Donc oui. Internet Archive, c'est ce site internet qui vraiment enregistre tous les sites internet depuis 20 ans. Donc le but, c'est de faire une espèce de copie de l'internet. Et donc je voulais y aller parce que je sais que le bâtiment ressemble au logo du site, c'est-à-dire que c'est une espèce de temple romain comme ça. Et en fait, on leur a donné une ancienne église, un ancien bâtiment religieux. Et donc on y va, je rentre à l'intérieur, je me dis quitte à y être, je voulais filmer que la façade au départ, je me dis quitte à y être, autant rentrer. Je vais à l'accueil et je demande s'ils n'ont pas quelque chose d'intéressant dedans. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit si vous voulez, je peux vous montrer l'étage, peut-être que ça vous intéressera. On va à l'étage et là, donc, on est dans les bureaux, vraiment dans l'Internet Archive, et c'est juste l'ancienne salle qui servait aux prières, quoi. C'est une église avec une verrière au plafond incroyable. Et des deux côtés de la salle, une centaine de statues quasiment grandeur nature, donc d'1m30, 1m40, hyper flippant. Donc là, je dis au gars, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le mec ne s'apercevait même plus que c'était fou, tellement ils ont l'habitude d'avoir ce truc. Et en fait, c'est des statues qui sont faites à partir des employés qui ont plus de 3 ans d'ancienneté dans la boîte. Donc c'est sûrement la seule boîte au monde où les employés ont des statues à leur effigie. Et du coup, c'était beaucoup plus fou que ce que j'avais prévu au départ.
Ah bah oui.
Et c'est dans la vidéo, voilà, les étranges escales à San Francisco.
C'est trop marrant. Quel grand mystère non résolu te fascine le plus ? C'est quelque chose qui te...
Grand mystère non résolu, le fait qu'on n'arrive pas à trouver la compatibilité entre la théorie de la relativité et la physique quantique, alors que les deux décrivent notre univers de manière parfaitement prouvée, mais pourtant les deux théories se contredisent, donc what the fuck ?
Et voilà. Bah, bosse un peu plus, Patrick. Essaie de porter ta pierre à l'édifice. Nous arrivons à la.
J'ai tout compris.
Fin de l'émission. On arrive à la fin de l'émission. On a des petits recos. Hein, c'est comme oui. Ça qui nous, les internautes veulent savoir quelles sont un peu les recommandations
autour de la table. Ma très chère Magla.
Allez.
Y a-t-il quelque chose que tu nous conseilles, s'il te plaît ?
Aujourd'hui, je voulais vous conseiller quelque chose en rapport avec le fitness et la muscu. Et je vous conseille les vidéos de Nassim Saïli, qui fait des vidéos de musculation et qui va vous expliquer de la diététique, des mouvements, etc. Et il explique très bien et c'est très intéressant.
Sur YouTube, c'est sur...
Sur YouTube, et vous avez son compte Insta, qui est Nassim.Saïli.
Ok, donc on va devenir musclé, saillant et sec.
Fit et sec,
grâce
exactement.
À, grâce à tout ça, grâce à Nassim.
Moi, c'est d'aller voir la chaîne Twitch de Gotoz, qui est un journaliste spécialiste jeux vidéo et qui fait des matinales autour de ça et qui teste des jeux. Et j'aime toujours son regard. Il a une belle voix et je trouve ça trop, trop cool. Et si vous
sur
êtes
Twitch.
Un peu matinaux sur Twitch, effectivement, c'est Gotoz, G-A-U-T-O-Z. Et voilà, c'est une personne admirable et j'aime trop son regard justement sur ce jeu vidéo parce qu'on a souvent l'impression... Enfin, j'ai l'impression d'avoir souvent les mêmes sons de cloche ou quoi que ce soit et je trouve qu'il a un regard assez intéressant. Et voilà, qui venait de Game Cult. Et voilà, Gotoz.
Qui fait d'ailleurs le podcast Les Démons de Midi.
Exactement,
qui est
avec Pippo.
Ouais, qui est super bien. Promo pour la chaîne d'un ami qui s'appelle La Théorie de Graham. Donc, une chaîne qui a été créée par l'ami Damien Maric, avec qui on fait le spectacle La Veillée d'ailleurs. Donc, c'est une chaîne d'analyse de films extrêmement poussée parce que Damien est du genre obsessionnel et il voit des tas de sens cachés dans les films. Et il peut passer des mois et des mois à décortiquer et le résultat est incroyable. Et donc, je vous conseille notamment une des dernières vidéos de la chaîne sur Midsommar. Si vous avez aimé Midsommar, il décortique le film dans les moindres
détails.
Quelle
idée de décortiquer Midsommar.
J'ai revu
c'est
le film.
Trop bien.
Je croyais l'avoir vu ce film. Je l'ai revu en voyant la vidéo.
Ah, bah, je vais aller voir direct.
Direct, ouais.
Théorie de Graham. Voilà.
Et moi, ma petite reco, c'est Oversimplified, qui reprend des moments historiques, surtout des guerres, et qui les fait en 5 minutes avec des petits bonhommes. Et du coup, j'adore. C'est en anglais, mais c'est un peu comme Bill Wurtz avec History of Japan, mais version moins drôle et un peu plus personnage. Voilà. Et vraiment, voilà, Seconde Guerre mondiale, plein de trucs. Et c'est beaucoup des maps et des personnages. Et donc, j'ai tout binge-watché. J'ai adoré aussitôt. C'est la fin de l'émission et j'ai été ravi de... Oui ?
C'est super.
C'était un big up.
J'étais
très content de te recevoir.
Ouais, c'est trop
c'était
cool.
C'était génial.
Patrick Beau.
C'est passé vite comme d'hab.
C'est toujours un plaisir d'écouter
ta chaîne Axolot, plein d'autres des livres et tout ça.
Axolot.
Et dès vendredi, un financement participatif pour ta nouvelle émission.
C'est ça, pour la prochaine saison d'Étrange Escale, Kiss Kiss Bank Bank, vendredi.
Salut Magla, salut Pierre, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, oui.
Ciao.
Merci, salut le chat, au revoir.
Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.